Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens vont penser que c'est pas vrai. Florentino vient de m'envoyer un message du mariage de Ramos avec une vidéo de ses retrouvailles avec Beckham. Je vous jure que c'est vrai.
C'est quelqu'un d'une intelligence suprême, terrain, quelqu'un qui est aussi attachant. Parce que...
On se calmer.
Ah non mais il a un QI qui est largement au-dessus du tien, Fred.
Le seul truc qu'on voit vraiment de palpable et qui est palpable visuellement, enfin, ça veut rien dire ce que j'y mets.
Je ne donne pas de note. C'est insupportable de donner une note. La Poste vient de voir, tu reçois un mail en disant faut le noter. Tu regardes un film, on te dit ce qui t'a plu, faut le noter. Ben, allez vous faire boire, les gars.
20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans Génération After, spécial drôle de dame. C'est l'événement ce soir sur RMC, le retour de la seule émission consacrée au foot européen à la radio. Tous les lundis, 20h-22h. Avec nos drôles de dames qui sont là, bronzés, reposés. On pas très bronzés, Fred Hermel pour l'Espagne. Salut Fredo.
Hola chicos.
Ça va?
Ah ouais, très bien.
Habillé tel un ressemblant physique avec un chanteur français.
Les garçons bouchés,
ouais, exactement. Enfin,
avec quelques kilos en moins quand même.
Lui, en avait un.
Il s'appelait François Hadji Lazaro. Il est décédé il y a pas très longtemps.
Oui, c'est pour ça que ça me
super mec. Tu sais que j'avais été figurant dans un film où il était acteur.
C'est pas vrai.
C'était Le Brasier. C'est un film qui était, c'est quand j'étais à la fac, donc c'était c'était un film sorti en 1990.
Ah bah Paulo Breitner a certainement dû voir ça. Salut Paulo.
Très beau film.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Tu l'as vu Le Brasier?
Non, ça me dit rien.
Ouais.
Avec Jean-Marc Barr et Maroucha Detmers.
Ah bah non, alors ça c'est trop intellectuel.
Oh, Maroucha Detmers quand même.
Et c'était passé
très
sur...
belle, très belle, mais c'est trop intellectuel quand même.
C'était passé sur quelle chaîne?
Non, c'est un film de ciné.
Ah, d'accord.
C'est un film de ciné. Mais en fait, le problème, c'est que le jour de la sortie, c'était le début de la première guerre du Golfe. C'est manque de bol, ça avait été un fiasco. Mais j'avais eu un rôle. Ouais. On me voit un petit peu pendant un bal.
Mais on était au courant de cette anecdote ou pas?
Parce qu'on non, c'est, des bah, c'est cadeau pour la ouais, pour ma 25e saison RMC. Il faut se renouveler quand même. Donc je raconte une belle anecdote.
Ah, merci, Fred. Donc tu lances ça, évidemment, on va tout de suite aller sur Google. Pour l'Italie, Johan Crochet là. Salut, Johan.
Salut, Thibaut. Bonsoir à toutes et à tous.
Bien vu. Lui a été malin, il est venu avec son pull en studio. Et bien joué. Ce qui fait moins 12 ans.
Il est bonne route aussi.
Bravo, Johan. Et Julien Laurence pour l'Angleterre est là. Salut, Julien.
Salut, Thibaut. Salut à tous.
Ça va, les gars? Vous avez passé un bon été? Vous êtes parti ou tiens, c'est là, on lance la saison ce soir, on rentre de vacances. Les drôles de dames, c'est du foot, mais pas que. C'est du tourisme également.
Ah oui.
Vous êtes parti où? Tiens, Polo, t'as fait quoi cet été?
Tous les 3-4 ans, je pars en Italie autrichienne ou en Autriche italienne, comme on veut. Je suis allé à Trieste. Donc, comme je te disais cet après-midi, la moitié du foncier est détenu par Generali, la société d'assurance, et l'autre par des Viennois. Donc voilà, c'est le sud de la Mitteleuropa comme on dit, donc officiellement en Italie, mais c'est un mélange de cultures assez extraordinaire là-bas. J'y vais souvent pour pêcher et j'ai appris d'ailleurs qu'à cause du réchauffement climatique, on retrouve maintenant des barracudas qui viennent de Grèce, donc c'est assez impressionnant. Et voilà, donc
je suis
encore là-bas en fait dans ma tête.
Voilà ce condensé de drôles de dames et tout en 30 secondes. T'as été où toi, Fredo?
J'étais en Grèce avec mon neveu qui a eu son BTS, donc tonton lui a offert de belles vacances en Grèce, sur une île qui s'appelle... J'ai suivi les recommandations de Daniel Riolo, donc je suis allé à Paros.
Ouais.
Puis après je suis allé dans le Morbihan, j'ai adoré le Morbihan. J'étais jamais allé dans le Morbihan et j'ai trouvé ça génial.
D'accord.
Et puis dans le Pas-de-Calais, bien entendu, quoi.
D'où ce bronzage...
Ça c'est le bronzage de mine, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est très très blond. Johan?
Dans les Alpes, à faire un peu de randonnée en Haute-Savoie.
Les Alpes italiennes, évidemment?
Non, françaises.
Ah.
Française, très proche de l'Italie pour le coup. Et après en Bourgogne évidemment et quelques jours aux Pays-Bas.
Parfait. Et toi Julien, t'as bougé? Ou t'as trop bougé?
Moi j'ai eu l'Euro.
Ouais, c'est ça.
Non, justement, l'Euro en Allemagne. Après j'ai eu une petite semaine à l'île de Ré et après les Jeux Olympiques. Donc il y a encore une petite semaine à l'île de Ré qui arrive la semaine prochaine et après c'est bon.
On va faire les drôles de dames depuis l'île de Ré peut-être.
Exactement.
Bon les gars, votre programme du soir, foot en 15 secondes, Polo.
Bah écoute, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'une petite révolution en Allemagne. C'est en deuxième division, près de 30 000 spectateurs de moyenne depuis le week-end. C'est assez impressionnant ce qui se passe et faire un petit débat avec nos drôles de dames. Évidemment, la Supercoupe qui a été remportée au pénalty par Leverkusen, à ce match assez extraordinaire jusqu'à l'expulsion du français Terrier. Et puis, on va essayer de s'intéresser à qui va gagner la Bundesliga 2024-2025. Leverkusen, le Bayern de compagnie, je dis bien de compagnie, Dortmund de Sahin, et puis, je suis un peu long, Leipzig de Rose. En gros outsider.
Johan.
On va évoquer le premier match catastrophique du Napoli sur la pelouse de Vérone. Défaite 3-0 et déjà le sentiment d'une mini-crise après une première journée. Bien alimentée d'ailleurs par Antonio Conte. On va revenir un peu sur tout ça. Le premier match du Milan de Fonseca,
qui est quand même qui était un des entraîneurs à suivre, un des nouveaux entraîneurs. Vous savez qu'en Italie, quasiment tous les clubs du top 10 ont changé d'entraîneur cet été. Donc ça fait partie de ces nouveaux entraîneurs. Il y aura Thiago Motta qui va jouer pendant l'émission avec, enfin qui va pas jouer, qui va entraîner la Juve et qui joue contre le promu Côme pendant l'émission. Et puis on parlera d'un petit génie, Mathias Soulet.
Et pour suivre Juventus Côme en France, c'est à la radio sur RMC.
Exactement.
Vous
ne
pourrez pas le voir à la télé. Julien, ton programme du soir.
Alors pour une première journée, premier choc en Angleterre, puisqu'on a eu un Chelsea City hier, qu'on analysera surtout le côté de Chelsea, parce que pour City c'était assez tranquille finalement. On regardera aussi ce qu'a fait Slot pour sa première avec Liverpool, et c'était plutôt intéressant, et les bonnes choses et les moins bonnes choses. Et puis une petite mise sur Arsenal qui a aussi bien débuté sa saison.
Fredo.
Bah bien entendu, on va parler de la première en Liga de Kylian Mbappé, puis ça va être mon premier coup de gueule de la saison.
Wow.
Ça commence à... Il y a déjà des trucs qui m'énervent.
Déjà
ce qu'on raconte en France sur Mbappé au Real.
Ouais.
Donc on va déjà s'énerver, c'est dommage, mais bon, comme tu, c'est comme ça. On va parler du meilleur mercato de la Liga, c'est l'Atlético qui l'a fait. Et ça, franchement, ça fait je pense que ça fait du bien pour la 14e saison de suite de Simeone d'apporter quelques très très bonnes nouveautés. J'ai d'ailleurs interrogé mes copains sur les joueurs qui viennent d'arriver. Et puis, on parlera bien entendu de Hansi Flick au Barça, qui a démarré par une victoire. Et aussi, est-ce que finalement Dani Olmo va pouvoir être inscrit en Liga? C'est tous les ans la même histoire avec le Barça et ses problèmes financiers.
32-16, si vous voulez réagir, interagir avec les drôles de dames, 21h45, ce sera votre quart d'heure. Les drôles de dames face aux auditeurs et à 22h, comme tous les soirs sur RMC. Ce sera l'after avec Gilbert Bribois. Salut Gilbert.
Salut les gars. Salut, je suis très content de ton introduction là, j'ai appris plein de trucs.
Ah bah oui, c'est drôle de dame.
Déjà Fred, faut savoir qu'en 25 ans, je l'ai jamais vu aussi svelte.
Ah mais j'ai repris un petit peu là.
Ah bon?
J'ai repris 2 kilos pendant les vacances.
Ah. En tout cas,
en Grèce, on mange bien, Morbihan et tout ça, mais je fais attention.
Je constate que Polo, quand même, l'Italie autrichienne, j'aurais plutôt dit l'Italie yougoslave pour Trieste, mais
bon. Déjà, quand tu vois la région et tu parles de l'Istrie. Tu parles de l'Istrie à l'Italie, tu vois, ils l'ont pas digéré de l'avoir perdu. Donc, si tu dis ça là-bas, t'es pas bien accepté. Historiquement parlant, tout le monde sait que Trieste est devenu riche grâce aux Autrichiens. Hein.
Bien sûr, savait tous.
Ah, les mecs, il y a des germano quelque chose quelque part. Toujours.
Il suffit de voir la bouffe.
D'accord. Mais Yohan dit rien. Je constate que Yohan, il veut pas d'emmerde, donc il se mêle pas du débat sur Trieste.
Non, parce que Trieste, pour Yohan,
c'est
pas l'Italie. Ah, si, c'est l'Italie quand même.
C'est pas l'Italie. Oui. Évidemment que c'est pas l'Italie.
Bon, sinon à 22h, ouais. Walid Acherchour sera là. Et Florent Gautreau, bien sûr. Alors, Florent, il a adoré le premier week-end de Ligue 1, il va nous dire pourquoi tout à l'heure. Walid, lui, il veut parler de l'OM, qui va très très bien. On fera le point également sur la saison lyonnaise. Est-ce qu'on est reparti pour une saison galère? Plus Thierry Henry qui quitte la Fédé après Hervé Renard. Mais qui veut encore bosser à la Fédé en fait? Et ils se barrent tous les uns après les autres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment?
Didier Deschamps.
Il n'y a que lui qui s'approche. Lui, c'est le patron. Voilà. Donc, on en débattra tout à l'heure. Et puis, on aura les dirigeants du Gol FC, club de la région lyonnaise, qui a la vague impression de s'être fait fourrer. Puisqu'ils
voulaient.
Ils auraient dû, selon eux, être repêchés pour jouer national à la place de Bordeaux. Finalement, le national est à 17. C'est vrai que c'est assez étrange. Et Gol FC n'est pas content. Ils ont fait la grève ce week-end. Ils nous expliqueront pourquoi tout à l'heure. Voilà le programme. Donc, tout à l'heure, Ligue 1 et un petit peu de foot amateur.
À tout à l'heure, Gilbert, avec Flo et Walid, 22h minuit, il est 20h10, c'est Génération After spécial drôle de dame. Je rappelle qu'on est en direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. 19 août, vous êtes peut-être début de soirée. Il y a du monde ce soir, je vous le dis, vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée foot. En plus, le mur remarche derrière. C'est magnifique. Le direct studio également. Et bien évidemment, le 32-16 pour les drôles de dame face à vous, face aux auditeurs. Il n'y a pas qu'en Italie, tiens, d'ailleurs, qu'on joue ce soir. Donc, Juventus Côme, 20h45. Et là, il y a Lecce Atalanta, Johan, en direct, un petit point en direct. Johan Crochet, Lecce Atalanta.
C'est hallucinant comme l'Atalanta est en train de faire une très grosse impression sur cette première journée parce qu'ils ont plein de problèmes de mercato, plein de problèmes de blessures. Cop Miners ne veut plus jouer, Lookman ne veut plus jouer. Scamacca est blessé, Scalvini est blessé, Kolasinac est blessé, Toloi est blessé. Et malgré ça, 4-0 sur la pelouse de Lecce avec en plus beaucoup, beaucoup d'occasions très bien construites. Donc il y a le jeu, les résultats, le résultat, les buts, les nouveaux qui marquent, Brescianini, Retegui. Donc c'est vraiment impressionnant.
C'est vrai qu'ils avaient fait une bonne
première
période.
On a une équipe qui gagne en Serie A, hein, les gars. C'est bien, parce que bon, c'était un week-end à match nul pour l'instant quand même.
Et exactement.
Ah ouais? Il y a eu beaucoup de matchs nuls.
Bah oui, des 2-2, des 0-0, des 1 partout. Oh. Il y a à peu près tout eu en termes de matchs nuls.
Week-end où les amateurs de matchs nuls sur les paris ont dû se gaver. Et puis en Espagne, 50 minutes de jeu entre Valladolid et l'Espagnol. Ouais. 1-0 pour Valladolid.
Et puis après, il y a l'affiche. Eh bien, cette journée. Et on va en parler, bien sûr, de Villarreal face à l'Atlético.
21h30.
Et l'Atlético, bah oui, c'est l'été, donc les gens vont à la plage, donc le foot, c'est l'Espagne. Ouais. Et encore, ça s'améliorait, parce que j'ai connu de nombreuses années où le match du samedi soir, c'était 22h, même en hiver.
Et là, 21h30, les Espagnols ont mangé avant ou ils mangeront après le match?
Non, ils mangent après le match.
Après le match.
Ouais.
Bon. 21h11,
ou alors, ils picorent un petit peu pendant le match.
Oui. Et tapas, tout ça.
Bah oui.
Méga longue. Du coup, on va faire une petite pause maintenant. Et dans un instant, on démarre sur Mbappé, son premier match en Liga. C'était hier et il a énervé déjà ce match. En tout cas, les commentaires autour de ce match ont énervé Fred Hermel. C'est Génération After Spécial Drôle de Dame. On est en direct jusqu'à 22h. À tout de suite.
RMC, 20h-22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Et quel plaisir d'être là avec les drôles de dames, avec vous tous en ce 19 août, lundi 20h14, CRMC, Génération After, spécial drôle de dames comme tous les lundis, 20h-22h, Fred Hermel, Johan Crochet, Paulo Breitner et Julien Laurence. On parle du Napoli d'ici un quart d'heure, mais d'abord, l'attraction de l'été, le transfert de l'année. On a enfin vu Kylian Mbappé sur un terrain avec le maillot du Real Madrid, c'était sa première en Liga hier soir, un partout contre Mallorca. Et ce premier match de Mbappé, t'as énervé Fredo ?
Oui, en fait, c'est-à-dire que moi, je trouve un peu ridicule le prisme qu'il y a en France sur les performances d'Mbappé. C'est-à-dire que on regarde à travers beaucoup de gens, je vois les commentaires qu'il y a eu un peu partout, regarde l'intégration d'un joueur français extrêmement important, et Dieu sait si on va avoir besoin de lui pour les prochaines échéances internationales. Je trouve que le regarder les performances d'Mbappé, l'intégration d'Mbappé avec la lunette du PSG, ça m'énerve. Il n'est plus au PSG. Donc en fait, les fans du PSG qui sont dégoûtés parce qu'il est parti, veulent le voir se fracasser en Espagne et lui trouvent même, alors on l'accuse même d'être coupable sur le but de la tête de Muriqi de Mallorca, comme si c'était lui, comme si Ancelotti mettait au marquage Mbappé sur le numéro 9 de l'adversaire.
Tu parles d'une vidéo qu'on a beaucoup vue aujourd'hui, relayée, où on voit Mbappé suivre un petit peu cet attaquant et
l'erreur, et c'est évident, c'est le saut à contre-temps de Rudiger qui est juste devant et qui coupe pas, il saute pas bien, et derrière c'est Muriqi, le joueur kosovar de Majorque qui marque. Donc je trouve ça un peu ridicule. Entre les gens qui vont l'aduler parce que ils sont anti PSG et que ils seraient ravis de le voir réussir ailleurs qu'au PSG, et puis ceux qui adorent le PSG, qui sont déçus, qui ont le seum et qui veulent le voir s'arrêter et enfin se fracasser la tête en Espagne. Non,
tu serais entre les deux.
Mais tu serais
objectif et t'en dirais quoi?
Alors moi l'objectif, je sais pas ce que c'est, parce que l'objectif, je suis pas un objet, moi je suis un sujet, donc je suis naturellement subjectif.
Et t'as plus de tif.
J'essaie déjà d'être honnête, et l'honnêteté, c'est que je trouve qu'hier il fait un match très très correct. Il fait un meilleur match que son premier match, qui est la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta de Johan, où il marque, mais dans le jeu, il n'est pas encore très bien. Alors que là, hier, je trouve qu'il y a des choses très positives. Très positives. À commencer par quoi ? À commencer par sa condition physique. On l'a vu faire des courses, sincèrement, des quelques pointes de vitesse. Ça faisait plusieurs mois qu'on ne les voyait pas chez Mbappé. Donc il s'est bien préparé. Ce qu'il a fait en équipe de France, ce qu'il a fait au PSG, ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus son problème, ce n'est plus le nôtre. Ce qu'il fait là au Real, physiquement, ça va bien. Et puis dans le jeu, moi je trouve qu'il fait beaucoup d'appels, très intelligent, et que les autres joueurs répondent à ces appels. Et donc moi je trouve ça bien. Donc Mbappé, on est très très loin du grand Mbappé, bien entendu, mais il vient d'arriver dans une équipe, dans un nouveau pays, mais alors même s'il parle très bien la langue, une nouvelle équipe, etc. C'est une équipe qui débute aussi, qui démarre, où il y a une grosse différence entre ceux qui s'entraînent depuis des semaines et ceux qui, comme lui, on 10 jours d'entraînement dans les jambes. Donc on va moi je trouve que c'est bien ce qu'il fait pour l'instant. C'est-à-dire, si tu calcules, tu regardes un petit peu l'évolution, voilà, tu vois un peu tu doses un petit peu ce qu'il doit faire au bout de deuxième match, ce qu'il doit faire, ben je trouve qu'il est dans les temps. Voilà, il est dans les temps pour l'instant. J'ai vu tellement de joueurs se fracasser au Real Madrid,
et surtout avec si peu de prépa.
Ben oui, très bien. Mais moi, je le trouve bien physiquement. Ben oui, bien sûr. Et puis, il s'entraînait avec les autres depuis 10 jours.
L'année dernière, on a vu que toute sa prépa lui a coûté sa saison.
Mais bien sûr. Là, la prépa, elle est bien avec Pintus, Antonio Pintus, que Johan connaît bien. Très, très bon préparateur physique. Donc voilà, on va tenter de faire voilà, d'observer ce que fait Kylian Mbappé sans ce prisme parisien qui me semble un petit peu un peu idiot en fait. Voilà, moi j'ai envie qu'il réussisse parce que moi je suis un supporter de l'équipe de France et je veux que le meilleur Mbappé soit encore meilleur que quand il est parti, qu'il progresse, parce que quand on s'entraîne avec Carlo Ancelotti tous les jours, quand on s'entraîne avec Modric, avec Vinicius, avec des joueurs comme ça, bah oui, Carvajal, oui, on progresse. Et donc ça faisait un moment que Mbappé n'ait pas progressé, donc moi je trouve ça bien qu'il soit au Real Madrid, qu'il se remette en cause. Et puis alors, un truc qui m'a énervé. Je vide mon sac.
Il revient chaque fois en vacances, celui-là.
Non, mais le problème, c'est qu'à un moment, il y a un contre. Il démarre tout seul. Il va jusqu'au bout du contre. Il y a peut-être une faute, il y a peut-être pénalty. En tout cas, il y a faute à l'entrée de la surface. Ou juste avant la surface. Je vois plein de commentaires de gens qui disent « Ouais, super perso, il va se faire pourrir par Vinicius, etc. » Oui, Vinicius l'a accompagné dans ce contre. Mais il y avait trois mecs sur Vinicius. Si Mbappé n'avait pas fait la place tout de suite, après, ça me semblait difficile de faire la place à Vinicius. C'est-à-dire que maintenant, on va regarder chaque petite chose en disant oui, les persos, on essaye de retrouver au Real ce qu'on lui reprochait à Paris. Moi, j'ai vraiment le sentiment, pour l'instant, que le Mbappé, les défauts d'Mbappé du PSG, on ne les retrouve pas pour l'instant au Real Madrid.
Bah, Julien, toi qui as une accointance avec le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que tu penses de ces premiers pas de Mbappé au Real et de ce que dit Fredo, surtout ce prisme parisien finalement pour juger Mbappé?
Moi, je ne sais pas moi, si les gens veulent qu'il échoue ou pas au Real. Je ne vois pas pourquoi ils aimeraient qu'il échoue. Après,
20 minutes, un jingle.
Sur la performance. Non, mais sur la forme d'hier, sur le match d'hier, sa performance, il a une ou deux occasions qui sont plutôt des occasions intéressantes où il aurait pu marquer, où il a bien fait de bons arrêts. Après, dans le jeu, il a raison, Fredo, ça va prendre du temps, mais c'est normal, il arrive, c'est nouveau de jouer avec Vinicius, de jouer avec Rodrigo, de jouer avec Bellingham, les déplacements, les courses, tout ça. Je suis d'accord sur le côté physique aussi que ce que Fredo dit. Je trouve qu'il a l'air plutôt en forme, c'est bien. Après, oui, hier, il aurait peut-être pu être un peu plus efficace, c'est sûr. Oui. Mais dans l'ensemble, j'ai pas trouvé ça mauvais hier, mais j'ai pas trouvé ça non plus mauvais en Super Coupe contre l'Atalanta. Et puis je pense que ça va aller de mieux en mieux. Après, la une de Marca, elle est assez négative quand même. Donc ce son de cloche un petit peu, pas que sur Kylian. Hein.
Bah, c'est ça, parce que le problème, c'est que j'en ai fait un partout. La une de Marca, elle est sur l'ensemble de l'équipe.
Voilà, alors, il a dit quoi la une?
Non, je sais plus quel est le titre. Enfin,
c'est Pinchasso, je crois.
Pinchasso, ça veut dire oui. Pinchasso, ouais. C'est quand tu crèves ta roue, en fait.
Ouais, dégonflé ou crevé.
Ouais, le Real, c'est dégonflé. Un truc.
Ouais,
mais en fait, ce qui s'est passé avec le Real Madrid, moi, je connais tellement, c'est que là, les mecs, ils se disent avec Mbappé, tout ça, nanana. Ils ont joué très, très bien le premier quart d'heure. Ils ont marqué très vite. Et après, ils ont joué à la baballe. Ils se sont fait plaisir. Sauf que, face à Mallorca, qui avait une grosse envie de faire quelque chose dans ce match, dépassé par l'envie de Mallorca. C'est-à-dire que non, la Liga reste un championnat très compétitif et que tu peux pas, même si t'es Mbappé, même si t'es Vinicius, tu peux pas te reposer sur tes lauriers. Et donc moi, ce que je trouve un petit peu ridicule, c'est de voir. C'est-à-dire que quand tu lis les articles de Marca, bien sûr, la une, c'était depuis d'Mbappé, donc tu mets la photo d'Mbappé. Mais dans les articles, par exemple, tu vois que les journalistes espagnols, mes confrères, disent aussi qu'Mbappé a été meilleur que lors du premier match, qu'Mbappé fait des choses intéressantes. Vinicius, par exemple. Après, le truc aussi, là aussi, oui, il était sorti après Vinicius. Il a pas été sorti. Vinicius a été sorti à la 87e. Vinicius a fait une deuxième période catastrophique. Il était très énervé. Je pense qu'à un moment, il aurait pu se prendre un rouge. Heureusement que Carlo Ancelotti le sort. Lors de la Super Coupe d'Espagne, d'Europe, Mbappé était sorti avant Vinicius. Donc voilà, il ne faut pas.
En fait, c'est ça qui pend au nez du Real.
On analyse plein de trucs en fait qui n'existent pas.
C'est ça qui pend au nez du Real cette année. Finalement, c'est avec toutes ces stars, ce côté.
La Liga, ça va être trop facile pour moi.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ce côté-là. Ouais. C'est exactement ça.
Mais Ancelotti,
il n'était pas content.
Il ne va pas laisser passer ça.
Il va pas laisser passer. Et finalement, c'est pas plus mal que ça arrive lors du premier match. Tu vois, à l'extérieur, parce que comme ça, t'as Ancelotti qui pique en général 2 à 3 gueulantes dans l'année, ça va lui permettre cette semaine, là il y a 2 jours de congé, cette semaine de gueuler un petit peu, dire les gars, c'est pas parce que maintenant il y a Mbappé, il y a Bellingham, il y a Vinicius, il y a Rodrigo, que. Mais tu voyais dans le jeu comment ils adorent jouer ensemble. Et parfois ils en font même un petit peu trop dans l'esthétique.
À tricote.
Tu vois, parce qu'il
y a un moment quand même en première période, Fredo aussi, où Vinicius déborde sur la gauche, il entre à l'entrée de la surface. Il y a Kylian qui est tout seul à l'entrée de la surface. Il a juste à passer le ballon latéralement. Il va chercher Rodrigo au deuxième poteau, alors que la solution, elle est pour Kylian. Mais c'est aussi des automatismes, c'est des habitudes de jeu. Et puis c'est normal quand Rodrigo et Vini, deux Brésiliens qui se connaissent par cœur, qui peuvent jouer ensemble les yeux fermés, c'est normal aussi que Vini, à un moment, aille chercher plus Rodrigo au début que Kylian. C'est tout à fait normal. Mmh. Et n'oublions pas, comme l'a dit Fredo aussi, ils ont joué il y a 4 jours contre l'Atalanta, alors que Mallorca avait eu toute la semaine pour se préparer pour ce match-là. Donc, physiquement, je pense qu'aussi en seconde période, ils ont dû ressentir les effets des deux matchs en 4 jours.
Et c'est la raison pour laquelle on reproche, et Carlo n'a pas forcément dit non, les changements de Carlo étaient peut-être un peu trop tardifs. Il y avait des joueurs
ouais,
comme Brahim, comme Guler, qui s'entraînent depuis bien plus longtemps que la plupart des titulaires qui étaient là, auraient pu faire. Voilà, après, franchement, alors, mais après, là aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à la Liga maintenant et à la presse espagnole parce qu'il y a Mbappé. Moi, mes copains espagnols, et moi, je continue à écrire dans l'As, etc. Il y a une manière de s'enflammer d'un côté et de l'autre. Voilà. On passe de l'enfer au paradis à chaque match. Donc voilà, il y a moins de mesures qu'on peut en avoir en France. Donc voilà, il ne faudra pas prendre chaque titre de Marca ou de As pour quelque chose de définitif, parce que dans deux jours, ils peuvent changer.
D'ailleurs, hier à Mallorca, il y avait Nadal, mallorquin et supporter du Real, c'est le club, et il a demandé le maillot à Mbappé à la fin du match.
Ah oui, il change entre eux. Mais Rafa Nadal, c'est le plus grand. C'est avec Fernando Alonso, il y a plein de grands sportifs espagnols qui sont supporters du Real, bien sûr.
Un mot sur le Barça, avant de passer au Napoli, on parlera de l'Atlético de Madrid et son recrutement XXL un peu plus tard dans l'émission. Le Barça qui s'est imposé difficilement à Valence 2-1. Mais là, pour le coup, ça t'a plu, le Hansi Flick?
J'aime bien. Ouais. J'aime bien, je trouve qu'il ne ramène pas. Je ne sais pas ce que pourra en dire Polo. Je trouve que il est très diplomate, il arrive... doucement, il se met doucement, il console la situation. Bon, il a appris à mentir aussi quand on lui dit, par exemple, voilà, Olmo, on peut pas encore l'inscrire parce qu'on n'a pas le fair play financier, on n'a pas les sous, etc. Donc c'est la raison pour laquelle Gundogan va accepter de partir pour libérer une place, pour libérer un salaire qui va permettre d'inscrire en Liga Dani Olmo, qui est la grande recrue de cet été au FC Barcelone. Donc il a dit non, je ne mets pas Olmo parce qu'il a besoin de s'entraîner un peu plus. Non, il l'a pas pris pour le match à Valence parce qu'il pouvait pas l'inscrire. Mais moi j'aime bien le discours d'Hansi Flick. Je le trouve serein et ça fait du bien. Voilà. Et je même si les Espagnols, les confrères espagnols, et c'est leur métier, c'est de le faire déraper déjà. Il contrôle. Je trouve qu'il est sur la réserve, etc. J'aime bien son attitude. Je sais pas ce qu'en pense Polo, toi qui le connais bien. Moi j'aime bien ce type, en tout cas, de la sensation qui dégage de lui.
Alors Hansi Flick, moi je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est une énigme en Allemagne, ne l'oublions pas. C'était un ancien grand joueur, il joue au Bayern dans les années 80. Il a été finaliste de la Ligue de la Coupe d'Europe des clubs champions en 87. Hein, c'est un international allemand, etc. Et puis il a toujours été dans le modernisme du football allemand. C'est-à-dire que lorsque l'Allemagne est championne du monde, il est l'assistant de Joachim Löw. Lorsqu'il y a eu la révolution footballistique à Hoffenheim, il était déjà là-bas. Il a été co-entraîneur à Salzbourg. Donc tous ces noms que je vous cite, rappelez-vous, c'est un peu tout le football allemand des 20 dernières années. Ensuite, rappelez-vous, il est devenu coach un peu par hasard, parce qu'il était toujours dans l'ombre un petit peu du Bayern Munich, et il fait une saison extraordinaire avec 21 matchs gagnés à la suite qui lui rapporte la Ligue des Champions 2020. Donc Hansi Flick explose aussi au sein du football allemand comme quelqu'un d'extraordinaire. Rappelez-vous, c'était la fameuse le fameux triplé, Jürgen Klopp, Hansi Flick, et Thomas Tuchel, les Allemands qui gagnaient la Ligue des Champions. Et puis évidemment, il y a son échec à l'équipe en équipe nationale 2022 qui a été un petit peu compliqué. Et puis là, je pense que c'est un excellent coup pour Barcelone. Mais le problème de Barcelone, je ne sais pas si c'est Hansi Flick ou si c'est le club de Barcelone, parce que je ne sais pas quelle garantie il a eu pour avoir une équipe compétitive. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent, que je considère comme très intelligent, très fin d'ailleurs sur beaucoup de choses, qui dit beaucoup de choses dans les tribunes, qui sait très bien gérer son vestiaire, etc., en tant qu'ancien joueur. Mais j'aimerais bien savoir, moi, la situation en fait de Barcelone aujourd'hui, et je sais pas s'il a fait... On parlait beaucoup de Thomas Tuchel aussi au Barça l'année dernière comme rumeur, etc. Je sais pas s'il a fait le bon choix. En tout cas, pour lui, à 59 ans, c'est extraordinaire. Puis c'est un beau gosse, je trouve, en plus. Donc ça fait
ouais, moi, je trouve qu'il passe bien. Mais en plus, moi, je sens plutôt présent réservé parce que après Xavi qui protégeait beaucoup Laporta, maintenant celui qui est en première ligne, c'est pas Flick, c'est Laporta, c'est le président.
D'ailleurs sur l'équipe du Barça, Gundogan qui est par ailleurs a annoncé sa retraite internationale aujourd'hui.
Il va partir. Il a accepté, mais on l'a foutu dehors.
Non mais c'est ça ce que j'allais dire.
Bien sûr. Non mais là, enfin c'est mes copains de AS qui ont sorti l'information cet après-midi en disant qu'il avait accepté, en disant bah si on veut pas de moi, je m'en vais. Mais voilà, alors comme toujours au Barça, du côté du club, on dit non mais c'est l'entraîneur qui a dit à Deco, directeur sportif, que pour lui, Gundogan n'entre pas dans son projet en tant que titulaire. Et puis, du côté de l'entourage de Gundogan, on dit, mais en fait, c'est pas l'entraîneur, c'est le club qui veut que je parte pour libérer un salaire. On en est là. Donc, moi, je pencherais plutôt là-dessus. Quoi.
Et juste sur la retraite internationale, rapidement, Polo, est-ce que tu m'en veux si je dis que j'ai vu 82 sélections pour Gundogan et que j'en ai pas une seule qui me vient en tête où je me dis, il a fait un grand match?
C'est un peu le problème de Gundogan avec la sélection nationale, c'est-à-dire qu'il est, même s'il a beaucoup été titulaire sur les dernières années suite à sa carrière extraordinaire, il a été un peu l'éternel remplaçant, et c'est assez dommage, parce que en fait quand j'avais des contacts à la fédération allemande, on me disait que Gundogan était quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui représentait l'avenir du foot allemand, etc. Et bon, il y avait une sacrée concurrence quant à Toni Kroos, quant à Mesut Özil, quant à différents Khedira à l'époque, qui a pris sa retraite depuis, qui est au milieu de terrain, c'est difficile de la trouver. Et en fait, il n'a jamais réussi à porter justement cette équipe d'Allemagne à l'image de la sélection qu'on a vue dans son Euro 2024. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire, ça va rester un joueur de club. Moi, je me rappelle, je l'ai vu débuter à Nuremberg. Il jouait en numéro 10 à l'époque. Je l'ai vu débarquer ensuite à Dortmund. Il a explosé, etc. Et puis, il a fait la carrière qu'on connaît. Mais c'est quelqu'un qui va manquer, où il va manquer quelque chose. Alors que tu viens de le dire, il a plus de 80 sélections. C'est quand même pas mal du tout. Mais voilà, il manque quelque chose.
Dans un instant, direction l'Italie, dans Génération After, spécial drôle de dame, et le Napoli de Conte qui a pris 3-0 à Vérone. Déjà en crise, c'est ce que nous dira ou pas Yoann Crochet dans un instant, avec Fred Hermel, avec Paulo Breitner, avec Julien Laurence. On est en direct jusqu'à 22h, comme tous les lundis.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Avec Fred Hermel, Yoann Crochet, Paulo Breitner, Julien Laurence. On a parlé cinéma, c'est ça aussi les drôles de dames.
Bah oui, parce que j'ai expliqué à Thibaut que
la mort d'Alain Delon.
Bah oui, on a parlé de la mort d'Alain Delon et tout ça. Je me disais, mais en fait, parce qu'on parlait de nos goûts, ça, que moi je peux aimer autant Hiroshima Mon Amour, qui est scénario de Marguerite Duras, qui est mon film préféré, et La 7ème Compagnie. Voilà, il faut tout aimer.
Il y en a un des deux que j'ai vu et que j'adore.
Hiroshima Mon Amour.
Évidemment. À suivre dans Génération After spécial Drôle de Dame, la minute de Polo. On parlera également PL avec le premier choc du week-end remporté par City, évidemment contre Chelsea, mais d'abord l'Italie. Johan, déjà, le direct s'est terminé entre Lecce et l'Atalanta. 4-0. Voilà. 4-0 pour l'Atalanta ce soir dans les Pouilles.
Ouais. Grosse impression de l'Atalanta, franchement, vu les conditions d'avant-match et ce que je disais tout à l'heure, les blessés, les joueurs qui n'étaient pas là, etc. Franchement, gagner 4-0 à Lecce, même si Lecce a eu des occasions et c'est un peu sévère, mais c'est propre.
Et pendant ce temps-là, le Napoli a pris 3-0 ce week-end à Vérone pour cette première journée de Serie A. Napoli qui est passé le premier tour d'Italie au tir au but la semaine dernière contre Modène après un match nul 0-0. Peut-être ça laissait présager certaines choses. Et en fait, on peut presque déjà parler de crise, Yo.
Ouais, parce que c'est pas le simple résultat. Il y aurait un résultat négatif comme ça, 3-0, et il se serait rien passé avant, après. À la limite, pourquoi pas. Enfin, ça peut arriver. Premier match, au mois d'août. On sait très bien que le football du mois d'août, notamment en Italie, c'est toujours un peu compliqué parce que le mercato est toujours un petit peu tardif et donc il y a des joueurs qui tardent à arriver. Mais il faut même aller dans le temps, remonter à avant le match. Parce que après le fameux match de Coupe d'Italie, entre le match de Coupe d'Italie et la première journée, il y a eu du temps et Antonio Conte a déjà mis un peu la pression avant ce match-là où il a expliqué, typiquement une phrase que tu peux à peine dire quand on lui dit dans combien de temps le Napoli sera compétitif, qui est une question un peu logique après la 10e place de la saison dernière. Et lui, il dit, je ne sais pas si ce sera dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Wow. Ouais. Tu ne peux pas commencer une saison en balançant un truc comme ça, en disant je m'attendais à mieux, la situation est compliquée, je pensais qu'on ferait mieux sur le mercato est bloqué, j'attendais des joueurs. Tout ça, c'est avant le match, hein. C'est une semaine avant.
Il savait où mettre les pieds quand même.
Il disait, je savais qu'il y aurait des difficultés, mais je ne pensais pas que ça serait à ce point-là. Ouais. En fait, je vais y revenir après, mais il y a un élément...
Il pourrait t'écouter.
Il y a ça, mais il y a surtout un élément bloquant dans ce que lui aurait aimé avoir comme matériel humain, donc comme joueur, pour démarrer la saison, l'élément bloquant, c'est Osimhen, mais je vais y revenir après. Il y a eu ensuite la conférence d'avant-match. Rebelote, il en remet une couche. C'est objectif de dire qu'on n'en fait pas assez sur le mercato. Je pensais que ce serait mieux, etc. Donc déjà, il y a un climat un peu anxiogène autour du premier match. Et la première mi-temps, on ne peut pas dire que Naples est à la rue comme à la deuxième. Ce n'est pas génial, mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est que je me souviens très bien des premières semaines, des premiers matchs, à chaque fois d'Antonio Conte, dans les clubs où il passe. La première Juventus, la Nationale, et même la Nationale, l'Inter, Chelsea, Tottenham. Tu commences déjà, après une préparation, à voir des premières choses très rapidement en championnat. Là, moi, j'avais l'impression de revoir le Napoli de Garcia, de Calzona, de Mazzarri, etc. Et c'est vraiment pas un bon signe parce que c'est quelqu'un qui entre dans la tête de ses joueurs très rapidement, qui met des mécanismes de jeu, notamment les sorties de balles, très précises, très codifiées. Donc c'est très facile, une fois que tu as appris le code par cœur, tu le retrouves facilement sur le terrain. Et ça, je ne l'ai pas vu. Et ça, c'est ce qui m'a inquiété assez rapidement en première mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps, c'est là où c'est plus difficile, c'est qu'on sort du cadre sportif ou du cadre du terrain et on entre dans le cadre psychologique. C'est là où Conte a dit après le premier but, on a fondu comme neige au soleil, et c'est vraiment le cas. C'est vraiment, il a totalement expliqué ce qu'on a ressenti. C'est, il y a eu un but, derrière, lumière éteinte, rideau, il n'y avait plus rien. Et donc ça, c'est inquiétant parce que c'est des joueurs qui ont gagné le Scudetto quand même il y a un petit peu plus d'un an. Quand on regarde son 11, ok, il n'y a pas de recrue puisque Buongiorno a été blessé, mais il y avait quand même tous ces titulaires-là, 9 sur 11, qui étaient les titulaires lors du Scudetto gagné. Et ces joueurs-là, ils étaient en capacité cette année-là de répondre à des exigences. Là, ils n'en sont plus capables. Je vous ai expliqué l'année dernière, notamment le fameux mal di pancia, la pancia piena. Tu gagnes un titre, tu n'étais pas programmé pour ça, tu as le ventre bien plein, est-ce que tu as envie d'aller chercher autre chose derrière? Ils ont des difficultés à le gérer.
Ouais, mais là, c'est peut-être le travail de Conte, justement, d'arriver, de relancer cette fin.
Là où c'est inquiétant, c'est que lui, normalement, c'est typiquement l'entraîneur qui est capable de faire ça. C'est-à-dire de remonter des joueurs, leur redonner confiance, leur redonner de l'estime de soi, envie aussi de se surpasser, leur refixer des objectifs à atteindre. Et là, on ne l'a pas vu à la fois en Coupe d'Italie et pas sur le premier match. Pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire que la saison, elle va être pourrie, qu'ils vont finir dixième, que ça va être une catastrophe. Mais entre les déclarations d'avant-match, le match, les déclarations d'après-match, je vous ai compilé un petit florilège quand même de ses propos en conférence de presse et auprès des diffuseurs. Alors, il y a une expression qui est très italienne, je vais la donner littéralement, mais pour l'expliquer. Il dit « J'ai le cœur qui saigne, on verra si c'est le cas d'autres personnes dans les jours à venir en visant un peu les joueurs. » En gros, c'est le cœur qui saigne, c'est t'es dégoûté et triste à la fois. C'est quelque chose d'assez profond. Quand tu dis « J'ai le cœur qui saigne en Italie », c'est que t'es vraiment mal, quoi, pour le coup. Et quand il dit « On verra si les joueurs ressentiront ça aussi », ça veut dire que déjà, t'es pas certain que les joueurs sont impliqués pour ressentir la même chose que toi. On demande pardon au peuple napolitain, on doit avoir honte. Dans toute ma carrière de joueur et d'entraîneur, j'ai rarement vécu un truc comme ça. Le mercato est préoccupant, une prestation inacceptable. Je dois comprendre si le cas du malade, il parle du Napoli en tant que malade, est désespérant ou non. Une journée de championnat, les gars. Une journée de championnat. Alors ok, défaite 3-0 qui est très impactante à l'échelle médiatique et à l'échelle de l'environnement du club. Effectivement, c'est... Les tifosi napolitains étaient à la fois inquiets, en colère, un peu dégoûtés hier après le match. Mais là, il t'a sorti bombe sur bombe en conférence de presse d'après-match. Je suis en train de lui dire, si tu perds le week-end prochain, tu dis quoi?
En fait, là, ce qu'il fait, c'est il met la pression maximale et il veut être sûr que là-haut de Laurentiis est bien
compris. Il met la pression sur ses dirigeants.
Il veut un mercato de fou d'ici fin août, en fait.
Alors lui, il a toujours expliqué qu'il attendait 5 ou 6 joueurs. Il y en a un qui est arrivé.
Ah oui, d'accord.
Et il n'a pas tort sur ce plan-là, parce qu'il faut vraiment aussi régénérer un peu ce groupe qui a vécu le top et le traumatisme juste derrière. Donc il fallait, évidemment, que certains vont reprendre un peu d'épaisseur dans le groupe, vont reprendre un peu de... Pas de volonté, parce que j'aime pas trop parler de la volonté des joueurs. Pour moi, les joueurs, ils ont jamais envie de pas gagner ou de perdre ou faire exprès de perdre, ça existe pas.
Non, mais la volonté de se faire mal, voilà, au moment de
exactement, de retrouver une certaine exigence au quotidien. Pour retrouver le haut du classement. Il y a des joueurs qui vont répondre à ça, mais il faut aussi régénérer un petit peu ce groupe-là et lui apporter un peu de moelle un peu différente et des joueurs un peu différents. Ouais. Mais ce qui m'inquiète, c'est dans le profil des joueurs qui sont ciblés. Lukaku, c'est pas ce type de joueur-là qui est affamé, qui va tout transformer. Billy Gilmore, mon cher Julien, de Brighton, j'ai pas l'impression que ce soit ce type. Moi, je l'ai vu jouer beaucoup la saison dernière. Je le connais pas plus que ça. Tu me diras si t'es d'accord ou pas, mais j'ai pas l'impression qu'on est sur un leader incroyable et un mec affamé.
Non, ça c'est sûr. Ouais.
Et David Neres, le mec, il est lunatique. Ça, un jour, ça va pas.
Ça fait deux ans qu'il est pas bon en plus.
Ouais, c'est ça. Un jour il comprend, un jour il comprend pas, un jour il a envie, un jour il a pas envie. Tu vas dire, mais Conte, il va s'arracher les cheveux, il va retourner en Turquie très rapidement pour refaire une grève.
Ouais, il fera pas ça, je pense.
Non, il refera pas une deuxième fois. Mais tu vois, même dans les profils de joueurs qui sont ciblés et qui arrivent, ouais, mais il a de l'argent, c'est pas un souci pour lui. Mais Neres, c'est fait. Gilmour, ça devrait être assez rapide aussi. Lukaku, bah, il y a le cas Osimhen qui bloque un peu tout le monde. Le cas Osimhen, c'est...
Justement, parce que Osimhen, on en reparle en France, à Paris, depuis la blessure de Gonçalo Ramos. Ça a réactivé un peu la... voilà, on en parle depuis longtemps. Est-ce qu'on en parle, on en dit quoi en Italie?
Non, on ne parle pas beaucoup de cette possibilité. On reparle beaucoup de Chelsea parce qu'il y a un problème de montant, comme toujours avec De Laurentiis. La barrière des 100 millions, lui, tous les joueurs valent 100 millions d'euros, en tout cas. Donc, par contre, ceux qui veulent acheter, c'est tous 10 millions d'euros.
au moins, c'est clair.
C'est clair, sauf que ça te met en difficulté sur ce marché-là. Parce que je pense que s'il n'avait pas eu ces exigences-là en tout début de mercato, il aurait réussi à le vendre, Osimhen. Là, le fait est qu'il y a beaucoup d'attaquants qui ont déjà bougé, les dominos ont déjà un petit peu eu lieu, il ne lui reste pas beaucoup de place, et ce qui semblerait le plus facile, c'est de réussir à dire à Chelsea, achetez-nous Osimhen pour une somme inférieure, et vous mettez Lukaku dans la balance en plus. Et comme ça, nous, on récupère le Lukaku qu'on veut, et vous aurez un autre attaquant qui sera peut-être plus adapté que Lukaku.
Et puis, il en manque un Julien de joueur Chelsea toujours. Hein.
Ah bah oui, on y reviendra tout à l'heure, mais là ils sont à 43 maintenant, voilà, avec l'arrivée de Joao Félix. Donc
Pour être bien, il en faut au moins 50, je pense.
Mais Osimhen, pour moi, c'est un vrai échec, à la fois pour De Laurentiis, parce qu'il n'aura pas le montant qu'il souhaitait, pour le joueur et pour ses conseillers. Parce que qui a fait miroiter à Victor Osimhen que toute la terre entière le voulait après sa saison du Scudetto? C'est son conseiller, c'est pas De Laurentiis, c'est son conseiller. Et aujourd'hui, ça risque d'être le choix entre Chelsea, d'après ce que j'ai compris, et l'Arabie Saoudite.
Alors Chelsea, on en parlait dans un instant et on va en reparler tout de suite avec Julien. Chelsea qui a perdu contre City 2-0, mais il y a quand même du positif à attirer. Mais d'abord, à 20h42 sur RMC, la minute de Polo. Musique, Polo. Cinéma, ça, non?
Ouais, c'est Stanley Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace, ouais. Mais c'est bon, c'est Richard Strauss quand même, 19e siècle, hein, basé sur l'œuvre de Nietzsche, évidemment.
Professeur.
Ainsi parlait Zarathoustra. Et pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Mais c'est très bien de parler cinéma avec Kubrick aussi. C'est que l'année dernière, fin mai, a été nommée pour la première fois une femme coach d'une équipe professionnelle masculine, Sabrina Wittmann, qui a 33 ans. Et je trouve, ce week-end, évidemment, c'était les matchs de coupe. Et son club, Ingolstadt, qui était un ancien pensionnaire de Bundesliga, et ben, affrontait une équipe de deuxième division. Ils ont perdu. Mais si tu veux, je suivais dans les médias allemands toutes les, entre guillemets, petites polémiques. Est-ce qu'elle va réussir, etc., en tant que première femme dans un milieu d'hommes, etc. Et donc, j'ai regardé attentivement toutes ces mimiques pendant les 90 minutes de la rencontre contre Kaiserslautern, et puis je l'ai trouvé d'un professionnalisme extraordinaire. C'est-à-dire que je n'ai pas vu une femme, je n'ai pas vu un homme sur le terrain, j'ai vu un coach de football qui replaçait ses joueurs, qui râlait, qui faisait des analyses super pointues à la mi-temps de la rencontre, qu'ils ont malheureusement perdu. Mais si tu veux, ce qui me plaît derrière ça, c'est que tu as aussi un club, Ingolstadt, qui a formé cette personne, puisqu'elle s'est occupée de différents poste à Ingolstadt. Elle était entraîneuse notamment des U19, des U17, elle a été responsable du développement, donc c'est le centre de formation, etc. Elle a été responsable sportif, etc. Et donc l'année dernière, elle a été coach intérimaire pendant 4 matchs, et elle a fait 2 victoires, 2 matchs nuls, et puis Ingolstadt s'est maintenue tranquillement. Et cette année, bah, elle a les clés du camion et elle commence vraiment son boulot à 32-33 ans, et bah, en 3e division allemande, qui est professionnelle. Et moi, encore une fois, c'est ce qui m'a plu, c'est-à-dire en dehors du fait qu'elle est charmante physiquement parlant, et c'est une très belle femme, c'est surtout dans tous ses discours quelque chose que j'aimerais voir parfois chez des hommes, c'est-à-dire qu'on est resté dans un point de vue technique, analyse de la position, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a perdu, etc. Et c'était du très très haut niveau, donc bon vent à Sabrina Wittmann, première femme coach d'une équipe masculine en Allemagne.
Merci Polo. Dans un instant, la minute de Fred et le premier choc de PL, c'était ce week-end. Il a tourné en faveur de City contre Chelsea, c'est Génération After spécial Drôle de Dame. Avec Polo Breitner, avec Julien Laurence, Yoann Crochet, Fred Hermel. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
On est encore au cœur de l'été, le 19 août, mais les drôles de dames sont déjà là. C'est reparti pour les principaux championnats. Fred Hermel, Johan Crochet, Julien Laurence et Paulo Breitner sont là comme tous les lundis soirs jusqu'à 22h. Dans un instant, on parle Première Ligue, la minute de Fred, mais d'abord, la Ligue 2. C'est la première journée qui s'achève ce soir avec deux matchs, parce que la Ligue 2, c'est pas le week-end cette année. Metz-Bastia, salut Patrick Muller.
Salut Thibaut et bienvenue ici au stade. Alors le match est parti, j'ai envie de te dire, mais pas tant que ça, puisqu'il y a déjà une interruption de cette rencontre. Et bien par rapport à ce que tu viens d'évoquer, hein, le fait que les matchs sont programmés ou le vendredi soir ou le samedi après-midi, mais là en l'occurrence surtout le lundi soir, ça ne plaît pas au public. Grève des encouragements ici. Et voilà, le match vient de repartir. Des balles de tennis ont été jetées sur la pelouse par les deux groupes ultra messins en protestation avec cette programmation. Et d'ailleurs, ça va de nouveau être interrompu alors que la rencontre avait théoriquement commencé il y a 2 minutes et 30 secondes de cela. On voit ces images là des stadiers qui sont en train de sortir des, je crois que ce sont des balles de tennis. Hein. Vu le rebond, a priori, ce ne sont pas des pommes golden. Ce serait plutôt des balles de tennis sur le terrain. Non, a priori non. Sur le terrain, c'est un Metz-Bastia avec Metz qui retourne en Ligue 2 et qui aura l'ambition de remonter immédiatement et qui devra vivre sans Georges Mikotadze et qui va devoir pour l'instant regagner les vestiaires au moment où je te parle parce que tous les joueurs, les 22 joueurs de cette rencontre sont en train de se rapprocher de la ligne de touche. On va voir si cette rencontre va pouvoir reprendre sereinement ou pas.
C'est un 100% cette année en France pour les diffuseurs télé. À tout à l'heure Patrick.
À tout à l'heure.
Martigues-Lorient, Maxime Tilliette, est-ce que ça joue chez toi au Vélodrome?
Oui, depuis 3 minutes, bonsoir à tous. Bon, au stade Vélodrome, tu l'as dit Thibaut, puisque en effet 2000 personnes ce soir au Vélodrome, c'est assez rare pour le signaler. Les Martégos qui ne peuvent pas jouer dans leur stade Turquan qui est en travaux pour être homologué pour la Ligue 2 et qui donc se retrouvent à jouer ici au Vélodrome. Vraiment très faible affluence, hein, seulement 2000 spectateurs environ. Les Martigues qui est de retour, hein, 22 ans après en Ligue 2 et d'entrer un gros morceau avec le FC Lorient qui aligne à 11 quasiment composé de joueurs qui étaient déjà là en Ligue 1 la saison passée. Mvogo, Talbi, Abergel sont titulaires, Bamba Dieng également. Et pour le moment, ce sont les Merlus qui monopolisent la balle après 3 minutes 0-0 entre Martigues et Lorient.
Merci Maxime, à tout à l'heure. Retour à nos drôles de dames et à la Première Ligue avec ce premier choc européen finalement de la saison en championnat pour toi Julien. City qui a battu Chelsea 2-0. Et finalement, à l'issue de ce match, il y a du positif des deux côtés à retirer.
Ouais, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Alors, on va commencer par Chelsea, parce que c'est vrai que la saison dernière, on avait été quand même assez offensif sur Chelsea, sur les problèmes, on en avait beaucoup parlé à l'antenne. Et je voulais commencer par un point plutôt positif, parce que certes, il y a défaite, certes, c'est un bordel sans nom quand même, ce qui se passe cet été avec toutes les arrivées, on l'a dit déjà tout à l'heure un petit peu en rigolant, mais d'avoir 43 joueurs sous contrat pour ton équipe première, c'est incroyable à ce niveau-là. Je sais pas comment un entraîneur, n'importe lequel, hein, même Guardiola ou même Klopp, et donc encore moins Enzo Maresca, un jeune entraîneur, jeune en tout cas par l'expérience et la carrière, je sais pas comment tu mets en place une séance, je sais pas comment tu les fais travailler. L'autre jour, le club lui-même a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux de la salle de gym, la salle de muscu. T'avais l'impression que c'était le périphérique parisien un lundi matin, 8h du matin, c'était impossible. Ils se marchaient dessus, les pauvres, ils essayaient de faire des poids, c'était impossible. Je sais pas comment tu peux faire. Bref, c'est ce qui se passe un peu en dehors du terrain. Et sur le terrain, j'ai trouvé notamment le premier quart d'heure une équipe de Chelsea qui a su bien ressortir le ballon, qui a pu battre le pressing de City. Au final, ils prennent un but après 18 minutes de jeu où ils sont un petit peu mal alignés défensivement, mais il y avait quand même j'ai trouvé des choses assez intéressantes avec le ballon. D'ailleurs, ils font quasiment autant de passes que City sur les 90 minutes. Ils ont un expected goals qui est supérieur à celui de City. Ils ont encore Nico Jackson qui rate une grosse occasion, mais bon, ça c'est Nico Jackson, on peut rien y faire. De toute façon, c'est pas un neuf, donc à mon avis, il en ratera souvent des occasions dans cette position-là. Mais voilà, donc tout n'est sincèrement pas à jeter pour une première, même à domicile. Rappelez-vous, la saison dernière, ils avaient commencé par un match à domicile contre Liverpool. Avec Pochettino, ils avaient fait un partout. Là encore, il y avait eu des bonnes choses. Et puis après, ils avaient fait n'importe quoi pendant jusqu'au mois de février-mars, quasiment. Donc là, on va voir la suite, comment elle se présente. Mais je voulais commencer, en tout cas, de façon un peu plus positive pour Chelsea. Après, pour City, c'était une après-midi tranquille, sincèrement. Un seul nouveau joueur. Ouais, en plus il n'y avait pas Rodri, mais même un Doku, même un De Bruyne, ça ne s'est pas entraîné beaucoup. Foden sur le banc, Stones pas là, Walker sur le banc, le jeune Savio ou Savinho que Fred connaît bien de Girona la semaine dernière. Bah oui, et puis là il fait il a 20 ans, voilà, il joue d'abord, il avait joué à gauche et Doku à droite, et puis ils ont changé parce que Doku avait un peu de mal contre Cucurella, et au final Savio fait très mal à Cucurella, donc voilà, même lui a été prometteur. Et puis après c'est tranquille pour City, hein, sincèrement, ils ont pas eu à forcer leur talent, ils gagnent, Haaland marque le premier
91
but.
91 en 100 matchs, c'est ça Haaland? Et ouais, il est toujours critiqué.
Non, mais alors il est critiqué hier, Polo, juste parce que c'est vrai qu'à part le but, tu vois, il a eu deuxième occasion.
Ça fout. Au bout d'un moment, faut arrêter de dire n'importe quoi. Déjà, je vois aussi la presse française là-dedans, d'ailleurs. Enfin, qu'on n'aime pas le style d'Haaland, quoi. C'est une chose.
Mais oui. Je suis d'accord avec toi. Mais après, même lui, c'est pas qu'il avait l'air blasé, Polo, mais même sur le premier but, il célèbre pas trop. Enfin, tu vois, il est là, il est content. C'était même pour lui, c'était un but facile. Alors, même si sa première touche, elle laisse un peu à désirer, je trouve, parce qu'elle est un peu derrière lui. Mais après, il est tellement fort, il est tellement puissant. Même dans un petit espace comme ça, il voit que le gardien sort. C'est quasiment parfait. Après la suite, il y en a une en deuxième période où il frappe intérieur pied gauche en une touche. Elle est un peu trop sur le gardien, donc elle rentre pas. Mais même pour lui, hein, c'est service minimum hier, comme un peu Manchester City. Et il s'impose quand même 2-0 sans vraiment trembler. Donc voilà, c'était une après-midi tranquille. Et puis ça va monter en puissance, quoi qu'il arrive, et lui aussi.
Ouais, Fredo.
Ouais, parce que j'ai vu le match en replay cet après-midi. Et j'ai vu aussi qu'en Espagne, on a beaucoup parlé d'un problème de Cucurella avec le public de City. Je sais pas si t'as vu ça.
Hier, tu veux dire dans le match, il a été un peu sifflé, mais c'était un peu ce qu'on avait vu en Allemagne déjà, où tu sais, il s'était fait un peu pourrir par les supporters.
Bah oui, parce que le
public. Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
Parce qu'il a chambré.
Je pense que ça vient de là aussi. Il avait chambré après, tout à fait,
ouais.
C'est ça.
Ah oui, d'accord. Mais il a chambré. Quel est son statut, justement, parce qu'il fait un bon euro. Quel est son statut maintenant, lui, à Chelsea? Parce que c'était pas un joueur espagnol très connu. Tu vois, maintenant, depuis l'Euro, quand même, on le voit plus, quoi. Enfin, c'est...
Ah ouais, mais la saison dernière, mais sincèrement, au début de l'Euro, personne en Angleterre aurait pu dire qu'il allait faire une compétition, un tournoi pareil, parce qu'il avait été vraiment, soit pas joué, soit il avait pas joué avec Chelsea, soit il avait vraiment été mauvais, ou très moyen, on va dire. Et puis, il fait, comme tu dis, un Euro fantastique. Et là, il semblerait qu'il soit le choix numéro un au poste d'arrière gauche pour Maresca et Chelsea, au point que Chilwell n'était même pas dans le groupe pour ce match-là, il devrait partir un peu comme Raheem Sterling. De toute façon, il va falloir qu'il fasse partir des joueurs, parce que, comme on l'a dit, ils ont un effectif bien trop important. Et lui, plutôt tranquille sur ce côté gauche. En tout cas, il a été bien meilleur qu'un Fofana, par exemple, qui, je trouve, a eu beaucoup de mal dans l'axe pour Chelsea, notamment sur sa relance ratée qui amène le deuxième but.
Moi, il y a un truc que je vais regarder vraiment, et parce qu'ils sont aussi dans tous vos championnats, ces Espagnols qu'on n'attendait pas et qui ont été au-delà du niveau qu'on pouvait attendre.
Je voulais te poser la question sur un joueur, mais
on en parlera un peu plus tard. J'attends de voir Olmo au Barça. Parce qu'il a été au-delà de son niveau habituel, sincèrement. Tu l'avais vu jouer, hein. Toi, tu parlais de quel.
Je parle du nouveau qui est arrivé à Leverkusen, je vais en parler un peu plus tard.
Bon, on en parlera tout à l'heure. On garde sous le coude. 20h54, on me dit dans le chat pour la comparaison avec la salle de muscu de Chelsea, on me dit sinon un Basic Fit à 17h.
c'est possible, je ne fréquente pas Basic Fit, mais oui, ça doit peut-être être ça aussi.
Fredo, hein, Basic Fit à 17h, c'est comme ça.
Sérieux.
Ah, mais moi, j'ai un vélo chez moi.
Bon, pardon monsieur.
Je ne mélange pas avec la population.
Un vélo stationnaire, comme on dit.
Un vélo stationnaire.
Pas home trainer.
Toi, t'as le même, Polo. T'as aussi un vélo stationnaire.
Moi, j'en ai deux chez moi.
Wow.
Un pour le Tour de France, un pour le Tour de France.
Exactement.
Tiens, Fredo, tu gardes la main. Place à ta minute musique, Polo.
Que dulces mentiras, que grandes verdades, que nos inventamos para perdurar.
Que de doux mensonges, que de grandes vérités, nous nous sommes inventés pour perdurer. C'est beau, non? Pablo Milanés, il fallait un Cubain. Il fallait un Cubain pour le sujet que je veux traiter ce soir. Le plus grand chanteur cubain mort il y a quelques années à Madrid, Pablo Milanés. Cette chanson s'appelle La Felicidad, le bonheur, parce que oui, c'est le bonheur de vous retrouver. C'est ma 25e saison RMC. 25e, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est pas rien, c'est un quart de siècle, donc je suis ravi d'être là.
Ravi d'être là, que tu sois là. Et d'être là avec toi.
Et pourquoi Cuba? Parce que je vous parlais de Miami. Et Cuba, vous savez.
25 ans quand même, excuse-moi, ça vient.
25 ans, bah oui. Bah,
L'ancien.
Bah oui, c'est quand Zidane arrive au Real.
Ah oui. Donc ça, c'est il y a 25 ans.
Il y a 25 ans, et voilà. Et donc, ça sera 25 ans dans un an, donc c'est ma 25e saison. Donc bref, Pablo Milanés, pourquoi? Parce que je veux parler de Miami. Et Miami, qu'est-ce qu'il y a de. C'est tellement cubain, c'est la ville la plus cubaine en dehors de Cuba. Il y a beaucoup de réfugiés cubains, bien sûr.
Là-bas aussi.
Et donc, Pablo Milanés est un chanteur extraordinaire, le plus grand chanteur cubain de tous les temps. Pourquoi je veux parler de Miami? C'est parce que les amis, je ne sais pas ce que vous faites à Noël, mais si vous avez envie de voir un match de Liga avant Noël, le 22 décembre, vous pouvez aller à Miami, au Hard Rock Stadium. aller voir Barça Atlético. Voilà, ça, c'est
match du championnat, quoi.
Match du championnat.
D'accord.
Voilà, c'est l'idée.
Quelle en a la raison?
Ah bah, l'argent, mon bon monsieur.
Ah ouais,
c'est l'idée. L'idée de David Tebas. Avait plusieurs fois, il avait déjà essayé de faire jouer il y a deux ans, mais ça n'avait pas réussi parce que la FIFA n'était pas très favorable. Aujourd'hui, il semblerait que la FIFA commence à être intéressée. Donc là, il pourrait qu'un match de Liga soit totalement part de ce jour en Amérique, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Alors, sur le papier, ça m'a fait rigoler. Moi, je trouve que c'est une honte pour une raison déjà éthique. Parce que sportivement, je suis désolé, c'est pas pareil, que ça fait un match de moins à domicile pour le Barça et un match de plus à l'extérieur.
Ouais, ça c'est tant pis pour eux. Ils ont le choix.
Ils ont le choix. Ils font ça pour l'argent.
Oui,
ils font ça pour l'argent.
Bon, tant pis pour eux, du coup.
Alors, ils adoraient. Tebas a adoré faire un Real Barça ou un Barça Real. Ouais. Sauf que le Real, il est en guerre, il n'en veut pas. Mmh. Ils sont en guerre, etc. Donc le Barça fait ça pour l'argent. L'Atlético fait ça aussi pour l'argent. En tout cas, il faut une affiche aussi qui puisse plaire beaucoup. Il fait ça parce qu'il estime que ça va promouvoir la Liga aux États-Unis et que ce sera bon parce qu'il veut attirer des investisseurs, voilà, des fonds de pension, etc., tout ce qu'on veut, et puis des sponsors pour la Liga espagnole qui a bien besoin d'argent. Ça, on peut le comprendre. Le problème, c'est que je trouve que éthiquement, c'est un vrai problème parce que ça fausse la compétition. Pourquoi ? Parce que le Barça joue un match de moins à domicile, c'est un problème. Parce qu'ils vont toucher de l'argent que les autres clubs ne vont pas toucher, c'est un problème au niveau de la compétition. Et puis moi, je pense aux supporters, en fait. Enfin, c'est quand même après le match du Real.
Mais c'est même pas les supporters, Fred. C'est les sociaux. Qu'est-ce qu'ils font, les sociaux? Vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne l'année dernière, quand il a failli y avoir un investisseur qui a débarqué? Le bordel que ça a été dans tous les stades allemands? Mais qu'est-ce qu'ils font en Espagne?
Mais en fait,
mecs, ils sont toujours là. Moi, ils ont le mot en France, on a le mot sociaux à la mot, à longueur de temps. Les mecs, ils foutent rien, quoi.
Mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'en plus, t'imagines, après le Barça Real, le Barça Atlético, c'est le deuxième match le plus important de la saison. Donc les mecs qui ont leur abonnement toute l'année, ils ne vont peut-être pas voir ce match-là. Donc c'est absolument lamentable. Voilà. Moi, je sais. Moi, allez, jouer la Super Coupe d'Europe à l'extérieur, le Trophée des Champions, tout ce que vous voulez, Super Coupe d'Espagne, pourquoi pas? Allez, ça prive de certains supporters, mais ça fait plaisir à d'autres supporters. Mmh. Mais là, je trouve que ça altère un championnat quand un match ne se joue pas.
Et en plus, 22 décembre?
Ouais.
Faire ça trois jours avant Noël.
T'imagines?
20h58, Génération After spécial Drôle de Dames. Avec Fred Hermel, Paulo Breitner, Yoann Crochet, Julien Laurence. Et on est en direct jusqu'à 22h. C'est reparti pour la saison des Drôles de Dames. Comme tous les lundis soirs, dans un instant, justement, le championnat d'Allemagne, peut-être le plus relevé de l'histoire. Paulo nous explique tout dans un instant. Il y a une petite astuce dans ce que je viens de dire, vous allez voir. Et puis, il y aura les minutes de Julien, de Johan. Ça va repartir en Ligue 2 entre Metz et Bastia, toujours 0-0. Pas de but non plus dans l'autre match du soir. Et puis, c'est fini en Espagne. Valladolid a battu l'Espagnol 1-0. En attendant, à 21h30, Villarreal, Atlético de Madrid. A tout de suite sur RMC.
Génération After.
RMC.
Pourquoi tu lui donnes pas sa chance? Ça te donne un arc, une possibilité supplémentaire.
Un frisson, c'est mon calame, c'est. Tu vois, c'est la différence entre les gens qui pratiquent et ceux qui regardent sur Google Crad. Google Crad.
Les deux personnes sont équivalentes dans leur pensée.
Oui, très bien. C'est ton avis. Moi, je pense que c'est un avis éclaté, mais c'est ton avis.
Je vois pas pourquoi ils aimeraient. Après, oui, hier, il aurait peut-être pu être un peu plus efficace.
Les conséquences de ces réactions-là, quelles vont-elles?
20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Ouais, vous êtes dur avec Nico Jamin quand même d'avoir sorti ça sur le dernier truc. On l'embrasse, il revient très vite.
Ah bien.
C'est Génération After spécial Drôle de Dame. Avec Fred Hermel, avec Paulo Breitner, avec Yoann Crochet, avec Julien Laurence en direct jusqu'à 22h. La saison est repartie, la saison des Drôles de Dame est relancée. Également tous les lundis, la seule émission de foot européen à la radio. Dans quelques minutes, on parle d'Allemagne, le championnat le plus relevé, la course au titre. Également l'AC Milan de Paulo Fonseca qui a connu un démarrage compliqué. Et puis l'Atlético, notamment. L'Atlético sera-t-il le rival numéro 1 du Real pour le titre? Il y a en tout cas un mercato XXL plus l'après Klopp qui a bien débuté. On est toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After. Vous êtes de plus en plus nombreux ce soir en ce 19 août. Merci d'être là, ça fait plaisir. Et puis le 32-16, bien évidemment, si vous voulez échanger face aux Drôles de Dames, 21h45, les Drôles de Dames seront tout à vous. Juste avant l'Allemagne, la Ligue 2, c'est la fin de la première journée. Est-ce qu'on est reparti pour ce match entre Metz Metz et Bastia. Patrick Muller.
Quasiment, mon cher Thibaut, après un bon quart d'heure d'interruption, le match a été interrompu après 2 minutes et 40 secondes pour cause de jet de projectiles de la part des supporters installés dans les deux tribunes du FC Metz, ici au Stade Saint-Symphorien. 0-0 entre Metz et Bastia. Ça va repartir d'ici quelques secondes.
Marty Glorian, Maxime Tilliette.
Eh bien, la 18e, toujours 0-0 et sans surprise, domination lorientaise, même si Martigues a quelques situations à négocier en contre-attaque. Mais on a vu Thierry Lauré, l'entraîneur des Martégos, s'agacer puisqu'il y a eu des coups de sifflet venus deux, trois fois des tribunes sur notamment une contre-attaque et ça a perturbé un peu les joueurs. C'était pas la première fois depuis le début de la rencontre. Le speaker a passé une petite annonce, mais bon, les coups de sifflet sont toujours là. Donc on va voir si ça va perturber un petit peu le jeu. J'ai l'impression que les joueurs s'y habituent. En tout cas, 0-0, on approche la 20e entre Martigues et Lorient.
A tout à l'heure, dans quelques minutes, l'Italie et l'AC Milan, mais d'abord l'Allemagne, Polo. Et c'est donc parti pour le championnat le plus relevé de l'histoire. Évidemment, on ne parle pas de Bundesliga, mais la D2 allemande.
C'est complètement fou ce qui se passe. Même les commentateurs, les supporters, les journalistes qui suivent ce championnat comprennent pas ce qui se passe en fait. Et moi, je voulais l'avis de mes collègues parce que, si tu veux, Fred vient de nous donner un exemple de ce qui se passe avec la globalisation. On a souvent parlé en plus ou en moins de la Première Ligue ou de différentes choses, comment ça va évoluer, le capital, tout ce qu'on veut, etc. Et puis là, tu as un championnat qui ne paye pas de mine comme ça, même s'il est très important en Allemagne, qui est relativement peu diffusé à l'international. Donc on sait que le football allemand est très centré sur lui-même, parce qu'il y a en gros, il y a la Pologne, il y a l'Autriche, il y a la Suisse, il y a des pays comme ça qui regardent, mais c'est pas tellement diffusé. Et tu as le plus grand championnat, en tout cas c'est ce que pensent les journalistes allemands spécialistes de la Zweite Liga, le plus beau qu'on a vu depuis la création de la deuxième division allemande, avec sur les deux premières journées près de 30 000 spectateurs de moyenne dans les stades, 29 612, mes calculs, c'est énorme. Vous avez évidemment Hambourg, Schalke, Darmstadt, Cologne qui sont descendus, Nuremberg, Hanovre, donc des clubs, le Hertha, des clubs qui ont été champions de Bundesliga aussi qui sont là, Düsseldorf, Kaiserslautern, Karlsruhe, ça parlera pour les vieux comme moi, Greuther Fürth, Paderborn, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce championnat-là n'est pas valorisé, on va dire, globalisé, comme on nous parle à longueur de temps, qu'il faut faire une Super League, qu'il faut faire évoluer la Ligue des Champions, qu'il faut faire ceci, le marketing, le blabla, tout ce que tu veux. Et je trouve que c'est assez extraordinaire parce qu'il y a un côté réactionnaire, entre guillemets, quand je dis extraordinaire, c'est ce qui n'est pas ordinaire, évidemment, et pas que je suis pour ou contre de ça, c'est que c'est assez réactionnaire. Il y a un côté conservateur comme quoi le public allemand, finalement, se retrouve dans ses clubs et n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le football professionnel. Et je peux vous assurer que j'ai regardé tous les matchs des deux week-ends derniers et c'était génialissime par l'ambiance qu'il y a, par le fait que les gens sont heureux, etc., et que ça pousse dans tous les sens et qu'on ne sait même pas qui c'est qui va monter en fin de saison. Moi, je voudrais bien avoir l'avis un peu entre guillemets politique de mes collègues là-dessus, parce que qu'attend la France par exemple pour diffuser la deuxième division? Je sais que Bein avait essayé de le faire l'année dernière, mais j'ai vu, ils font de la pub, mais j'ai vu deux matchs et puis c'était fini, etc. Donc moi je voudrais bien qu'on m'explique un petit peu ce phénomène. Est-ce que c'est un phénomène conservateur, réactionnaire un petit peu par rapport à l'évolution globalisée du football, ou si c'est autre chose? En tout cas, c'est une superbe surprise.
Je fais une parenthèse avant de laisser la parole à tes collègues drôles de dames. La Ligue 2 cette année en France, on en a parlé plus que jamais, on en parle encore, on est en direct à Metz là avec Patrick Muller, mais bon, pas pour les bonnes raisons évidemment, puisque cette année les horaires ont changé. Le multiplex qui avait lieu le samedi soir avant a lieu désormais le vendredi soir à 20h, d'où la colère des supporters de tous ces clubs de Ligue 2 qui jugent justement que leur championnat, leur club n'est pas respecté.
Alors, j'ai été très critique sur la Liga, moi, ces dernières années, mais j'ai jamais été critique sur la deuxième division espagnole, qu'on appelle la Liga Hypermotion, c'est le sponsor, franchement, parce que c'est vraiment bien. Il n'y a pas un niveau énorme entre la deuxième partie de la Liga et la première partie de la Liga de deuxième division. Et quand tu regardes cette saison, vous avez Santander, vous avez Almeria, vous avez Malaga, vous avez Tenerife, vous avez Gijón, Sporting de Gijón, vous avez Grenade, vous avez le Deportivo La Corogne, vous avez Cordoue, vous avez Cadix. Non mais vous avez quand même plein de super clubs, quoi. Enfin, des clubs très connus et plein de clubs qui ont joué en première division. Donc c'est un peu le même phénomène qu'en Allemagne, c'est-à-dire qu'on a de grands noms.
Comme dit Polo, peu mise en valeur aussi chez toi.
Ah, elle est plutôt pas mal en Espagne, on en parle quand même pas mal. Ouais, franchement, aussi parce que... Alors, je sais pas... je me fais une réflexion comme ça, je lance comme ça. Est-ce que tu penses, Polo, que la décentralisation qu'il y a dans nos deux pays fait qu'il y a aussi une mise en valeur, notamment dans les médias locaux, de clubs comme ça, de deuxième division?
Ouais,
ça,
non, mais c'est sûr que le régionalisme, entre guillemets, est très important, le fédéralisme, comme on dit pour les Allemands, etc.
Et mais quand même,
ça fait partie,
les clubs sont très importants. On met en avant la deuxième division parce que localement, ça compte, quoi.
Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, si tu veux, c'est que alors c'est vu d'un produit pour le marché allemand ou pour le marché alémanique. C'est pas, ils sont pas là pour être en prime time de la première ligue, en avant-première ou ce que tu veux. Mais c'est ce qui m'intéresse, c'est comment ça se fait que ça explose, alors que ce sont des clubs qui évidemment financièrement ne roulent pas tous sur l'or parce que les droits télé ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de droits télé internationaux. Et les transferts, évidemment, c'est pas ceux de l'élite, etc. Et donc je me regarde comment ça se fait que le public répond présent. Alors le niveau des matchs en Allemagne, je ne regarde pas à l'étranger, mais le niveau des matchs en Allemagne et en deuxième division est très très élevé. Mais bon, si tu commences à aller en bas de classement de la deuxième division, ça devient aussi un peu compliqué parfois à voir. Mais tu te rends compte que ça pousse. Alors évidemment, c'est des noms. Quand tu as Karl Schrue, tu sais ce que ça veut dire. Kaiser Slautern, tu le sais, Fred, on est les vieux cons de l'after. Ça, c'est un nom qui nous parle. Ah oui, il y a des choses comme ça. Mais.
Le dimanche soir, les résultats, tu sais, les panneaux à la télé sur la deuxième.
Mais que je vois que année après année ça augmente. Alors évidemment il y a des mecs spécialisés dans le marketing qui bossent bien, les financiers, blabla, tout ce qu'on veut, mais ça n'a rien à voir avec la globalisation ou le produit qu'on nous donne pour les premières divisions européennes. Et je trouve ça très intéressant de voir comment se fait-il. Alors on m'a parlé, j'ai entendu encore un mec du marketing là, français, qui m'a parlé de Culture Stade. Moi je sais pas, jamais en Allemagne j'ai jamais entendu parler de Culture Stade, mais lui apparemment il s'y connaît. Donc c'est le genre de truc comme ça. Je voudrais savoir d'où ça vient. Pourquoi est-ce que ça pousse comme ça? Est-ce que c'est une réaction justement à l'évolution du football, voire plus? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est un truc qui me passionne. Et j'ai regardé tous les matchs des deux premières journées. Ben, j'attends qu'une seule chose, c'est que ça continue, quoi. C'est un truc assez génial à ce niveau-là.
Ouais, moi, quand je vois, par exemple, quand tu vois le derby d'Asturie, qui est l'un des grands derbys d'Espagne, qui joue en deuxième division entre le Sporting de Gijón et Oviedo, par exemple. Voilà, ça c'est. Il y a 50 000 personnes, 40 000 personnes dans le stade. On en parle pendant des semaines. Enfin, tu vois, et c'est traité quand même dans la presse espagnole.
Il y a une deuxième division dont on parle beaucoup, notamment en France. Bah, c'est la tienne, Julien, la des deux anglaises, mais notamment pour ses moyens, pour les joueurs parfois qui viennent de. Voilà, en France, les joueurs qu'on recrute d'Angleterre souvent viennent de Championship.
Ouais, c'est vrai aussi. On a vu par exemple Rennes qui a recruté Jordan James, là c'est ça, qui était descendu avec Birmingham, l'international gallois. Mais nous, elle est très mise en avant, forcément, parce que déjà, c'est du très haut niveau, entre guillemets. Alors, c'est pas toujours très spectaculaire, c'est pas toujours du très beau football, mais c'est vrai que ça fait beaucoup recette. Les stades sont pleins, c'est un vrai spectacle, comme ils l'ont fait un petit peu pour la première ligue, un degré moins. Mais nous, la troisième division, la quatrième division, la cinquième division, c'est la télévision aussi ici. Donc, c'est une autre mentalité, c'est une autre structure, la pyramide, comme on l'appelle en Angleterre, qui fait descendre l'argent de la première ligue vers justement ces autres divisions là, la deuxième, troisième, exactement. Non mais c'est vrai. Ouais. Et c'est pour ça aussi que ces clubs là sont beaucoup plus riches que leur équivalence en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France, etc., etc. Ça vient de là aussi parce que la première ligue gagne tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre de faire ruisseler, comme tu dis, en bas de la pyramide. Donc voilà, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'ils le vendent, ils vendent ça très très bien.
Ouais. En France, il y a une gouttière, ça ruisselle pas.
Ouais, ça ruisselle pas. Après, c'est la question aussi de clubs. Quand tu vois des clubs comme Malaga, comme Oviedo, qui sont tombés très bas, comme le Deportivo, qui sont tombés très bas à cause de problèmes financiers parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Comme ils ont toujours conservé des centres de formation. Et la formation d'Espagne, elle est bonne. Aussi, ça s'appuie sur beaucoup de joueurs espagnols formés au club. Donc, ça aussi, ça permet d'avoir une compétitivité et un style qui est plutôt pas mal en Espagne.
Allez, dans un instant, on retourne en Italie pour la première de Fonseca avec l'AC Milan. Première compliquée, mais ça aurait pu être pire. On parlera également du mercato XXL de l'Atlético de Madrid, peut-être le rival numéro 1 du Real pour le titre. La minute de Julien Laurence également. C'est dans un instant sur RMC, Wion.
Et l'ouverture du score de la Juve par Bangula, jeune joueur de la Next Gen, la U23 de la Juve, qui a fait sa formation à la Juve et qui jouait chez l'U19 il n'y a pas si longtemps que ça.
L'après Allegri des Marvilles.
Et première surprise hein, de le voir titulaire. Alors on sait que la Juve a écarté pas mal de joueurs, il y en a qui sont un peu sur le banc, qui ne sont pas encore au point, mais c'est surprise de voir titulaire et une belle action personnelle et une frappe au ras du poteau.
Le match qui vient de débuter, pour avoir le résultat, c'est à la radio hein, sur RMC. Pas de diffuseur en France de la Serie A. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After. Thibaut Giangrande.
Le retour des drôles de dames, Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet en direct jusqu'à 22h comme tous les lundis soirs. Dans un instant, l'Italie, un petit point sur les matchs en cours, ça n'a pas bougé en Ligue 2, 0-0 entre Martigues et Lorient et entre Metz et Bastia. Dans un quart d'heure, coup d'envoi de Villarreal, Atlético de Madrid. Et en Italie, la Juve mène 1-0 contre Com après une demi-heure de jeu. On est toujours en direct sur YouTube, le chat de la chaîne RMC Sport. D'ailleurs, Johan, beaucoup de questions sur la diffusion de la série en France. Je le disais, toujours pas de diffuseur.
Non, toujours pas. On reparlait à la Ligue encore ces dernières heures et les discussions reprennent avec les potentiels intéressés, sachant que la France n'est pas le seul territoire où l'Italie ne s'est pas encore vendue. Il y a l'Inde, l'Australie et d'autres. En Angleterre, ils ont signé au dernier moment. Aux États-Unis, ils ont signé au dernier moment. Mais comme d'habitude, la Ligue fonctionne très très bien aussi en Italie, au moins aussi bien qu'en France. Donc,
C'est fort.
Donc c'est très très fort. Et donc ça va se jouer entre Bein et DAZN, mais il y a une vraie tendance pour DAZN.
Ok. L'Italie justement avec la première de Paolo Fonseca sur le banc de l'AC Milan et ce match nul de partout face au Torino, pas un bon résultat mais ça aurait bien pu être bien pire parce qu'il y avait 2-0 encore à quelques minutes de la fin pour le Torino.
Ouais, ils se sont réveillés, c'est un peu le truc de l'énergie du grand club qui malgré tout est quand même supérieur en individualité et en collectif qui devant la pression des dernières minutes et l'entrée en jeu de pas mal de titulaires réussir à renverser la rencontre. Alors il n'y a pas de comme pour le Napoli, mais de toute façon, on fera ça jusqu'à mi-septembre. Pas de panique pour tous les clubs, tant qu'il n'y a pas 4-5 matchs de jouer, que déjà le mercato n'est pas terminé. D'ailleurs, en Italie, on reparle beaucoup de la volonté d'arrêter le mercato quand le championnat recommence, parce que sinon c'est trop compliqué, c'est un bordel pas possible, qu'il y a des joueurs comme à l'Atalanta qui refusent de jouer alors que le championnat a repris. Ça paraît tellement être du bon sens que...
Mais c'est infaisable.
Bah si, il y a une année où ils l'ont quasiment fait partout hein, d'arrêter.
Ah oui, mais c'est ça, il faut que ce soit harmonisé. Ah oui, mais
faut que ce soit harmonisé, bien sûr.
Ouais.
Mais ça serait.
Ça peut pas venir que d'Italie.
Il n'y a rien d'infaisable, hein. C'est juste une question de volonté. Hein.
Tu fais 15 août et puis c'est bon.
Exactement. Ouais. Donc, il n'y a pas d'alerte particulière sur le match de Milan. Déjà, quand on prend la composition d'équipe, quand vous voyez qu'il n'y a pas de Théo Hernandez, qu'il n'y a pas de Pavlovic, la recrue principale en défense centrale, qu'il n'y a pas Emerson Royal titulaire, pas encore Fofana qui a été présenté à la mi-temps, pas Reinders qui était aussi remplaçant, Morata qui était remplaçant. Bon, c'était un 11 très expérimental qui était d'ailleurs plus basé sur la forme du moment et donc des joueurs en capacité de jouer 90 minutes ou s'en approchant un peu par rapport à d'autres qui étaient vraiment en retard de condition. C'était le choix de Fonseca, ça n'a pas été payant et on a vu quand même la différence qu'entre Théo, Morata, Reinders sont rentrés, ils ont vraiment changé, surtout Reinders je trouve qui a fait des très très grosses différences au milieu de terrain. Il y a quand même une constance chez Fonseca que moi je suis depuis le Shakhtar parce que ça me plaisait vraiment et le Shakhtar était souvent un laboratoire pour des jeunes coachs qui arrivaient un peu après et même pour des très bons Brésiliens notamment qui arrivaient après dans les grands championnats. Ensuite à la Roma évidemment de près, à Lille un petit peu également, c'est que à partir du moment où ils perdent le ballon, s'ils n'ont pas cette capacité à déclencher un pressing très rapide pour le récupérer, et pour ça on revient à la condition de départ, il faut être en forme physique, il faut avoir les capacités pour jumper très rapidement et récupérer le ballon, pour switcher entre j'avais le ballon et je remets de l'énergie pour le récupérer, ils sont vraiment, et il faut les joueurs pour ça, encore plus important, il y a des profils de joueurs pour ça et il ne les a pas toujours eu ces joueurs-là. Ils sont quand même, les équipes de Fonseca sont quand même globalement en difficulté à la perte de balle. Et c'est ce qu'on a vu sur le match contre le Toro, où dès qu'il y avait une perte de balle, le pressing ne s'enclenchait pas et le Toro avait pas mal de temps et d'espace pour avancer le jeu, pour sortir le ballon et donc d'être dans un confort un petit peu plus marquant que s'il y avait eu du pressing, qu'ils avaient été obligés de jouer rapidement et donc de provoquer quelque part un peu de déchets techniques ou d'incertitude. Il y a encore des choses à améliorer sur... il y a un terme qu'on utilise beaucoup en Italie, parce qu'on est des dingues de tactique, parfois d'ailleurs un peu trop, ce qui empêche l'ouverture du jeu, mais le marquage préventif, c'est comment une fois qu'on a le ballon, on s'organise déjà quand on a le ballon pour la perte de balle, et donc les positions des joueurs sont très précises sur le terrain pour mailler à la perte de balle un peu tous les espaces nécessaires. Donc il y a des choses encore à régler, pas mal de choses à régler. Hier, il y avait quand même un manque flagrant d'idées, de créativité, de dépenses énergétiques, mais ça peut être lié à la forme physique, et d'agressivité, ce qui a beaucoup gêné Fonseca. L'essentiel de son discours d'après-match à DAZN, le diffuseur du match était quand même basé sur ça, sur le manque d'agressivité. Il n'a pas aimé la passivité de son équipe. D'ailleurs, Ambrosini, qui était le consultant, l'a aussi envoyé sur ce thème-là, la passivité de l'équipe, qu'on avait parfois vu avec Pioli. Et donc, Fonseca était censé amener une réponse à ça. Donc, on verra s'il sera en capacité de le faire. Et ce qui est presque un peu gênant, je trouve, pour un peu tout le monde à Milan, pour les dirigeants, un peu pour Fonseca et pour les joueurs, et notamment ceux qui sont censés être des leaders, c'est que Morata, à la fin du match, il est là depuis 15 jours, Morata. Il a dit faut changer d'attitude, faut changer de mentalité.
C'est lui qui a égalisé d'ailleurs.
Donc, tu vois, que ce soit un mec qui vient d'arriver, qui est là depuis 15 jours, qui n'est pas connu pour être un leader extraordinaire, Morata.
Même s'il était capitaine de la sélection espagnole.
Bien sûr, mais ça, dans son parcours...
C'est surprenant quand même.
Mais oui, mais dans son...
Non, ça ne lui va pas très bien, je trouve. Mais bon.
Oui, c'est ça.
A priori, ce n'est pas le type auquel on pense pour être le leader d'un vestiaire.
Exactement. Et que ce soit lui qui, après la première journée, vienne te dire, et 15 jours sur place, j'ai déjà remarqué qu'on devait changer de mentalité et donc être totalement différent dans l'agressivité, l'exigence... vouloir rouler sur l'adversaire, ne pas se contenter de ce qu'on fait, vouloir faire toujours plus. Je trouve ça presque un peu gênant. Je trouve ça bien d'un côté que tu te découvres une sorte de leader comme ça, mais pour tous les mecs qui étaient jusque-là présents, les Calabria qui est capitaine, même un Théo Hernandez, un Maignan, ce type de joueur-là, un Loftus-Cheek qui a quand même un statut aujourd'hui à Milan, un Leao évidemment aussi, je trouve ça un peu gênant.
Ouais, Morata, tu voulais
Morata,
dire un mot.
Morata, oui, parce que en fait, il s'est passé beaucoup de choses pour lui. Son départ en Italie, c'est lié en grande partie à la haine qu'il ressent en Espagne. Moi, je trouve ça dommage. On l'a déjà évoqué. Moi, je trouve qu'il y a un délit de sale gueule ou plutôt un délit de belle gueule. C'est-à-dire que Morata, c'est pas le typique footballeur qui vient d'en bas. C'est un petit bourgeois, Morata, et on lui fait payer ça. Et Dieu sait que moi, je suis pas un petit bourgeois, mais je vais le défendre parce que je trouve que. C'est ce qu'on appelle un pijo en espagnol. C'est un besbège, bonne famille, école privée, banlieue chic de Madrid, chemise rouge à carreaux et cheveux gominés. Et donc, il est le prototype de ce qu'on appelle un pijo en Espagne. Et je trouve que autant je déteste le délit de sale gueule pour des gens qui sont pas classe, autant je déteste le délit de sale gueule pour des gens qui sont classe. C'est-à-dire que c'est comme si, comme il vient d'un milieu favorisé, il n'avait pas le droit d'être dans le football. Tu vois? Et il a toujours reçu. Bon, il a fait des erreurs. Son père a beaucoup fait d'erreurs, etc. Mais je trouve que l'acharnement qu'il y a eu contre lui, notamment les menaces de mort contre ses enfants, enfin, c'est grave parce qu'il manquait des buts avec la Tético ou il manquait des buts avec la sélection. Moi, je trouve que cette campagne contre Morata est dégueulasse. Il divorce. Mais il part en Italie aussi parce qu'il est un peu dégoûté de son pays, de l'Espagne, de ce qui se prend dans la tête. Et je voulais poser la question justement à l'ami Johan. En Italie, il est plutôt apprécié, la personnalité, etc.
Il est apprécié quand il est passé à la Juve et ça s'est très très bien passé au sein du club, évidemment, où la Juve a plusieurs fois pensé même à le faire revenir ces derniers mois. Au niveau médiatique, c'est quelqu'un qui a toujours répondu au présent quand il fallait aller faire une interview. Assez rapidement à parler l'italien également. Donc, très bonne intégration, pas de délit de sale gueule. Il a été plutôt bon en plus quand il a joué à la Juve. Donc, là aujourd'hui, c'est quand même pas rien de passer derrière Giroud, qui a peut-être pas marqué 20 buts par saison, mais qui a eu un impact très important.
Tiens, justement, l'Atlético, il vient de quitter ce club qui bouge beaucoup. Bravo. Est-ce que l'Atlético, avec ce mercato, va être le rival numéro 1 du Real Madrid pour le titre. Alvarez, le Normand, Sorloth sont déjà arrivés. On attend Gallagher, là, c'est tout proche.
Il arrive demain.
Et voilà. Donc là, sans Gallagher, on est à 140 millions déjà d'euros dépensés. C'est plus compté sur l'Atlético que sur le Barça, finalement, cette saison.
Je ne sais pas. En tout cas, au moment de juger le mercato, il est évident que le plus beau mercato, c'est l'Atlético. Vraiment, franchement, parce que Sorloth, il finit deuxième meilleur buteur de la sélection espagnole avec de la Liga espagnole la saison dernière avec Villarreal. D'ailleurs, il joue ce soir contre Villarreal. Julian Alvarez, c'est quand même un super coup. Moi, je trouve qu'un Argentin, c'est un bon joueur quand même.
C'est très cher, trop cher en revanche.
Ouais, mais bon, après l'Atlético, vous direz
75 millions.
Ouais, mais ils ont de l'argent parce qu'ils ont fait une ouverture de capital. Il y a un fonds d'investissement américain qui est là.
Puis ils vont à Miami le 22 décembre.
Ouais, peut-être.
Et puis pour le sortir de City, je pense qu'il fallait payer très cher.
Voilà. Mais moi, je trouve ça bien parce que tu perds Morata et je pense que Morata, il pouvait plus progresser énormément. Julian Alvarez, il peut se passer quelque chose. Le Normand, bien entendu, parce que voilà, avec la défense à 3 que fait maintenant clairement El Cholo Simeone et puis les Pistons, etc. Je veux dire, le Normand, c'est bien. Ils veulent un autre gaucher, un autre défenseur central gaucher. Pourquoi pas? pourquoi pas Laporte qui pourrait intéresser le Real aussi. Si, ouais. Oui, alors il faudrait qu'il parte pas trop cher de l'Arabie Saoudite et qu'il baisse bien entendu son salaire parce que c'est même au Real, il n'aura pas le salaire qu'il a en Arabie Saoudite. Mais bon, pour l'Atlético, ça peut être intéressant. En tout cas, lui, il a envie de revenir en Liga. Moi, je pense Conor Gallagher, qu'est-ce que tu en penses pour l'Atlético? Je trouve qu'il y a une rénovation à l'Atlético qui me plaît pas mal du tout parce qu'il y a quand même des joueurs importants qui sont partis. Hermoso, Savic, Memphis, Saúl, Morata, Paulista. Il y a quand même une vraie régénération du côté de l'Atlético qui, pour la 14e saison consécutive de Simeone à la tête de l'équipe, c'est un truc de fou, me semble intéressante. Qu'est-ce que tu en penses de Conor Gallagher?
Pour moi, c'est le joueur parfait pour Simeone, quoi. Tu vois, c'est un joueur que moi, c'est pas que j'aime pas trop. C'est vraiment un très bon garçon. Mais c'est un joueur qui surtout court beaucoup. Tu vois, un foncier incroyable qui va presser. De toute façon, il est en train de créer une machine à pressing hein, entre Alvarez et Gallagher. Tu prends deux joueurs qui, au niveau du pressing, il y a pas beaucoup mieux en Europe. Après, avec le ballon, j'ai un peu de mal avec Gallagher, c'est tout, mais il est pas là pour apporter la touche créative à l'Atlético de toute façon. Donc, pour moi, c'est un joueur parfait pour Simeone. C'est un joueur qui travaille très dur, qui dit jamais rien. C'est un garçon charmant, vraiment agréable. J'en parlais encore avec Patrick Vieira, que j'ai vu samedi à l'Emirates pour le match d'Arsenal, qu'il a eu à Crystal Palace, lui, et qui a adoré, tu vois. Et c'est vrai, mais de toute façon, c'est parfait pour Simeone. Après, 40 millions, je trouve que c'est un petit peu cher pour un joueur comme lui. Mais bon, encore une fois, si l'argent est là, c'est pas un problème. Mais
les 75
parfait du joueur Simeone.
Pour Alvarez aussi, tu trouvais ça cher?
Ah, mais moi, le plus fascinant, entre guillemets, pour Alvarez, c'est qu'ils l'ont acheté 15 millions et qu'ils leur vendent deux saisons plus tard 75. Mais c'est incroyable. Mais de toute façon, même si depuis, il a remporté la Coupe du Monde, il a fait plein de choses, le triplé, la Ligue des Champions, tout ce que vous voulez.
En jouant pas beaucoup,
jamais de la vie, c'est un joueur à 75 millions. Ouais, en jouant. Après, alors, il a été très efficace, c'est un joueur fantastique, hein. Il peut jouer partout. Encore une fois, il a un état d'esprit parfait, physiquement, en parlant, en termes de pressing, c'est fantastique. Donc, lui aussi, c'est vraiment un joueur très Simeone. Mais de faire un bénéfice pareil de la part de City, avec un joueur dont l'amortissement, qui a quasiment déjà été fait, en plus. C'est hallucinant.
Après le Normand, pareil, plus de 35 millions d'euros.
Bah, c'est bien le Normand, je trouve que c'est une belle évolution par rapport à.
Oui, c'est pas mal pour lui, mais pour l'Atlético, on n'est pas non plus sur un.
Non, mais après l'Atlético, de toute façon, la famille Ril Marin, puisque c'est le fils qui possède et qui représente la famille, estime le club à 1,2 milliard. À terme, l'Atlético sera vendu de toute façon. Donc, mais alors, il y a un truc aussi, c'est le. J'y reviendrai parce qu'on verra la condition physique de l'Atlético dans quelques semaines. Parce qu'il y a une petite révolution, c'est le changement du préparateur physique. Oscar Ortega, qu'on appelait le prophète, qui était là depuis 13 ans, qui était une espèce de. C'est un fou furieux, hein, les joueurs n'en pouvaient plus. C'est un mec qui tuait les joueurs, quoi. Il les tuait. Et les préparations d'été, les mecs, ils vomissaient. Hein. Enfin, c'est, et puis toute la saison.
Est-ce que c'est pas aussi lui la réussite du Cholismo?
C'était aussi peut-être la réussite à un moment, mais
le point faible aussi, tu veux dire.
À un moment, la fatigue des joueurs. Tu te souviendras, Johan, tu sais, quand l'Atlético en huitième de finale, première année de Cristiano à la Juve, ils perdent 2-0, ils perdent 3-0 au retour.
Exactement.
Et que la veille, en général, la veille de match, c'est plutôt des entraînements plutôt légers, etc. Le prof Ortega leur met une charge de travail de malade et ils se font démonter le lendemain, quoi. Donc, voilà, c'est un gros changement. C'est Luis Pinedo, qui était le préparateur physique espagnol de l'équipe B, qui est monté avec Simeone. Donc, quand on sait l'importance du physique chez Simeone, pour la première fois, on va regarder de près, vraiment de très près, le nouveau préparateur physique.
Et ça commence ce soir, hein. Dans deux minutes, le coup d'envoi du premier match de l'Atlético de Madrid. C'est à Villarreal. On va vous donner l'évolution du score sur RMC, bien évidemment. Dans quelques instants, la course au titre en Allemagne avec Polo. Mais d'abord, la minute de Julien Laurence.
Waterloo Sunset des Kings, grand supporter d'Arsenal, les Kings bien sûr, si vous aimez ce genre de musique-là, de cette période-là, grand supporter d'Arsenal parce que je voulais parler un tout petit peu d'Arsenal qui pour beaucoup ici en Angleterre sont les favoris de la Première Ligue cette saison après être passé très près les deux dernières campagnes. Et c'est vrai qu'ils ont plutôt bien commencé à domicile contre Wolverhampton. Victoire 2-0, but et passe d'aise de Kai Havertz, but et passe d'aise de Bukayo Saka. Même s'ils ont perdu un peu le contrôle du match en début de seconde période quand Cunha est entré pour Wolverhampton, et qu'ils ont peut-être une petite baisse physique et un réajustement à faire un peu tactique après l'entrée de Cunha. C'est vrai que c'était plutôt satisfaisant, en tout cas pour un premier match à domicile qui de toute façon n'aurait jamais été parfait. Donc voilà, après-midi plutôt tranquille, c'est bien pour Kai Havertz d'avoir marqué encore. Ce sera lui le numéro 9 de cette équipe, alors qu'on parle encore beaucoup du besoin d'Arsenal d'aller chercher un grand numéro 9, un grand buteur. Je pense que c'est pas vraiment l'envie en tout cas d'Arteta, des dirigeants en ce moment d'Arsenal. Ils iront sûrement faire un Mikel Merino par exemple, et puis après ce sera terminé, en tout cas dans le niveau des arrivées. Mais voilà, c'était des débuts plutôt plutôt tranquilles, encore une fois un peu comme City à Chelsea, contre un adversaire assez physique qui à mon avis va embêter quelques équipes en Premier League cette saison, mais ouais, c'était vraiment vraiment assez encourageant pour Arsenal et Kai Havertz et Bukayo Saka.
Analyse musicale, ça fait un peu Beatles, non, les Kings?
Oui, un petit peu, bah, c'est ouais. Sûr. Mais
On aime bien.
En vrai, c'est agréable à écouter quand même. Hein.
En moins bien, tous les fois.
Bah oui, bah, y a rien
de écouter moins bien que les Beatles, de toute façon.
Ouais, de toute façon, il est 21h30, petite pause. Dans un instant, la course au titre en Allemagne avec un Bayer Leverkusen déjà très chaud. La minute de Johan Crochet à suivre. Et puis le point Ligue 2, on sera à la mi-temps dans quelques instants. C'est Génération After spécial Drôle de Dame. Le retour, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Spécial Drôle de Dame, et oui, 21h33, on est lundi soir et on reprend les bonnes vieilles habitudes, ce sera le cas toutes les semaines. Fred Hermel, Johan Crochet, Paulo Breitner, Julien Laurence, dans un instant, la course au titre en Bundesliga, la minute de Johan Crochet, l'après Klopp à Liverpool qui a bien débuté. On est toujours en direct sur YouTube, le chat, la chaîne RMC Sport. Flegmo qui me dit à vous Thibaut, comme moi t'as cru que c'était les Beatles. Totalement, j'ai totalement cru que c'était les Beatles. C'était la minute de Johan. Juste avant le foot chez nous en France, le lundi soir pour la Ligue 2, et un but entre Metz et Bastia, Patrick Muller.
Exactement, c'est la quatrième des 20 minutes de temps additionnel de cette première période, hein, parce qu'il y a eu une longue coupure en début de rencontre pour des jets de projectiles, des balles de tennis semble-t-il, et le score est effectivement ouvert 1-0 pour les Bastiais par l'intermédiaire d'Amine Boutra. Et peut-être pas de poussette sur ce coup-là, encore là sur une offensive bastiaise. Mauvaise appréciation de Sané qui rate son contrôle. Boutra récupère et ajuste Oukidja. Pas du tout impérial sur ce coup-là. Ça va pas fort pour le FC Metz pour ce retour en Ligue 2. 1-0 en tout cas pour les Bastiais ici sur la pelouse de Metz. 5 minutes dans le temps additionnel, sachant qu'il y en aura 20 donc dans cette première période.
Et on joue aussi entre Martigues et Lorient, Maxime Tilliette.
Mais c'est la mi-temps, pas de temps additionnel ici, mais pas de but non plus en revanche. 0-0 entre Martigues et Lorient, grosse domination des Merlus, 70% de possession de balles, 12 tirs au but, mais pas de but, donc toujours 0-0 entre Martigues et Lorient.
À tout à l'heure, ça vient de partir entre Villarreal et l'Atlético de Madrid, 3 minutes de jeu, 0-0. Le Tottenham a ouvert le score face à Leicester après 34 minutes, et la Juve vient de marquer encore contre Com, Johan.
Juste avant la mi-temps, là c'est la mi-temps, et c'est un but de Timothy Weah sur un débordement de Kenan Yildiz, un centre en retrait et une très belle et forte puissante frappe du gauche sous la barre transversale, ça rentre et ça ressort.
Le championnat
est titulaire.
Ah oui, titulaire pour sa première. Le championnat en retard, bah c'est l'Allemagne, Polo. Ça reprendra ce week-end, vendredi soir, et c'est une saison.
Il n'est pas en retard. Il a justement un calendrier très intéressant avec 18 clubs seulement.
Pardon, je refais. Les championnats qui sont trop en avance, c'est l'Italie, voilà, c'est tout le monde.
C'est ça.
L'Allemagne démarre à l'heure ce vendredi avec un Bayern, Polo, qui aura fort à faire pour récupérer son titre. Parce qu'on l'a vu ce week-end, il y a déjà un Bayern Leverkusen. Chaud.
Ah, c'est très très chaud, c'est même un petit peu surprenant pour tout le monde en Allemagne, parce qu'on était persuadé qu'il y allait avoir, comme on dit en Allemagne, une attaque du Bayern pour récupérer son titre. Et puis il y a eu la Super Coupe d'Allemagne entre évidemment Leverkusen et Stuttgart, et il y a eu notamment une première demi-heure assez extraordinaire avec une équipe, j'ai pas envie de dire une équipe B, mais une équipe A prime de Leverkusen. Alonso avait prévenu déjà depuis 15 jours, 3 semaines qu'il ne fallait pas s'attendre à retrouver le niveau de l'année dernière et tout ça. Et tu les vois jouer et tu te dis, mais quand même, ils sont largement au-dessus de Stuttgart. Ça se finit sur un 2-2, Terrier, le français, et à mon avis, il est encore en L1, il n'a pas compris qu'il était en Bundesliga, il s'est fait expulser à la 37e minute. Ils arrivent à égaliser à 2-2.
Pourquoi tu dis ça sur Terrier?
Parce que je trouve que c'est un peu physique. J'aimerais bien qu'il joue au foot, tu vois. Et il est là dans une équipe qui joue et pas mettre le.
Tant il sait le faire, c'est étonnant.
Enfin, il est dans une équipe où je ne suis même pas sûr qu'il soit titulaire, on va être très sérieux, hein, parce que Wirtz était sur le banc. On ne sait pas qui. J'avais dit, il y avait Boniface, Frimpong et Grimaldo n'étaient pas là. On ne sait pas qui va y avoir en défense centrale, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Mais surtout, déjà, on a retrouvé le Leverkusen de l'année dernière qui arrivait à marquer dans les arrêts de jeu. Et là, en plus, ils étaient en infériorité numérique. Mais il y avait des phases de jeu qui étaient assez extraordinaires et ils ont rajouté quelque chose qu'ils n'avaient pas l'année dernière. Et c'est aussi une recrue. C'est pour ça que je parlais d'un Espagnol tout à l'heure. Et j'aimerais bien que Fred me le dise. C'est Garcia.
Alex Garcia.
Qui a un pied droit. Mais c'était fou parce qu'il, sur les corners, sur les coups francs, il les déposait où il voulait. Ce qui n'était pas la grande force de Leverkusen qui était beaucoup plus dans le jeu, etc. Et s'ils rajoutent cette arme à l'armada offensive qu'ils ont et qu'ils arrivent en plus à être super offensifs, à super dangereux sur les coups de pied arrêtés, je ne sais pas qui c'est qui peut aller chercher, dans l'absolu, ce Bayer Leverkusen qui a vraiment marqué les esprits lors de cette Super Coupe contre Stuttgart. Parce qu'encore une fois, il y avait les vieilles valeurs, et il y a ce Garcia, moi, et attention, hein, il y a Xhaka, Garcia, Andrich, il est normalement qui est là, et il y a Palacios qui manque au milieu de terrain, théoriquement c'est pour deux places. Hein. Donc on va voir un petit peu comment il va faire ça, il va faire sa sauce, Alonso. Mais j'ai vraiment trouvé un Leverkusen assez impressionnant et mature par rapport à la dernière, parce qu'on disait que la dernière, le Leverkusen, c'était le championnat du siècle pour eux, c'était fini, ça allait passer, etc. La plupart des joueurs sont encore là, on va voir ce qui va se passer jusqu'à fin août, mais en tout cas c'était impressionnant. L'autre, alors j'aimerais juste Fred, ce qu'il pense de Garcia, ouais, parce que ouais, franchement, impressionnant.
Moi après que...
C'était à Gérone la saison dernière.
Bah oui, c'est ça, et c'est le gros drame. Gérone, ils ont perdu des joueurs importants, on parlait tout à l'heure de Savio, voilà.
Dovbik,
au moins
ils ont récupéré Paulo Lopez.
Ouais, bravo. Mais le problème de... Alors, ce qui m'étonne, c'est que tu me dises que le grand joueur qui était Xabi Alonso, entraîneur, n'avait pas un joueur qui mettait le ballon là où il voulait. C'était comme très étonnant quand tu t'appelles Xabi Alonso d'avoir pas retrouvé ce joueur-là. Alex Garcia, alors, il a un parcours très particulier quand même, Alex Garcia. Hein. C'est quelqu'un qui aurait pu, qui est quand même passé par Eibar, qui est passé par l'Angleterre, qui était passé par Villarreal au départ, qui était formé là-bas, qui était revenu à Gérone en deuxième division. Il a aidé à la montée, il a aidé à la consolidation en première division. Il a aidé beaucoup la saison dernière. Cette équipe a terminé troisième de la Liga et se qualifié pour la première fois de son histoire pour la Ligue des Champions. Ça va être très dur pour Gérone aussi à cause du départ d'Alex Garcia. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qu'on aurait pu enterrer en disant voilà, ça va être un joueur, un bon petit joueur de la Liga, de club petit, moyen. Et là, il fait un saut énorme quand même. Et c'est bien entendu la saison qu'il a faite à Gérone qui lui permet aujourd'hui de jouer à la Ligue des Champions avec le champion d'Allemagne. Quoi.
Il a 27 ans, mine de rien, déjà.
Mais c'est quelqu'un qui on aurait pu penser jamais n'atteindre le très haut niveau. Et pourtant, bah oui, aujourd'hui, oui.
Et l'excitation, Polo, aussi pour cette saison de Bundesliga, donc outre la saison de la confirmation attendue et qui démarre bien pour le Bayer Leverkusen, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux ouais, coachs. Et notamment au Bayern, quoi. Est-ce que,
au Bayern. C'est assez impressionnant aussi. Vincent Kompany, qui fait un sans faute pour l'instant, je trouve, médiatiquement, qui en plus parle allemand, il a joué en Bundesliga, évidemment. Alors que la presse l'attend au tournant. Et qu'on attend le Bayern Munich au tournant. Ils ont remporté assez facilement à Ulm, qui vient de monter en seconde division. Quand je dis assez facilement, c'est que dans le jeu, il y a un moment, ils ont vraiment dominé, puis ensuite, c'est un peu compliqué, mais tous les clubs de Bundesliga, évidemment, n'ont pas encore 90 minutes dans les pattes. 4-0, donc à Ulm. Et surtout, Vincent Kompany, tout le monde l'attendait, parce qu'on dit en une expression, Hermus liefern sofort. Il doit livrer tout de suite. C'est-à-dire que il doit montrer que le Bayern est de retour. Le problème, c'est que est-ce qu'il a l'effectif pour concurrencer le Bayer Leverkusen qui m'a l'air, encore une fois, techniquement parlant, au-dessus aujourd'hui. Parce que le 11 de départ qu'on a vu à Ulm, c'est les mêmes joueurs que les dernières. Thomas Müller, qui a fait un match extraordinaire, était en faux neuf. Harry Kane était sur le banc parce qu'il n'est pas là. Et puis, en fait, on recrute Palinha, évidemment, en arrivé de Première Ligue. Ça rappelle que Thomas Tuchel le voulait et que ça faisait un an qu'il le voulait. Donc, il arrive avec un an de retard. Il y a plusieurs choses qui se sont passées dans le mercato du Bayern, mais il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'articles qui sortent dans la presse sur la pyramide salariale du Bayern Munich. J'avais déjà évoqué ce problème l'année dernière, où en fait on a peut-être surpayé des joueurs qui sont très moyens. Et finalement, quand tu veux faire une restructuration pour attaquer, pour aller chercher des grands joueurs, eh ben ça devient compliqué. Donc ils ont perdu De Ligt, Mazraoui, il y a les petits jeunes qui partent, ils sont beaucoup pressés, etc. Mais ils ont récupéré Olise, j'attends un petit peu de voir, évidemment, c'est très cher. Ito, personne ne le connaissait après moi, même si je l'avais mis dans ma liste l'année dernière pour les fameux chapeaux, etc. Tu te rends pas compte, t'as pas le sentiment que c'est un Bayern quand je vois, par exemple, comment travaille le Real depuis 2-3 ans, j'ai le sentiment que le Bayern est en train de se faire décrocher à ce niveau-là. Alors, évidemment, beaucoup dans la presse allemande et tous ceux qui ont joué au Bayern sont persuadés que le club va reprendre le titre en 2025, sauf qu'il y avait l'année dernière 18 points de retard, et Leverkusen a le droit de perdre un ou deux matchs. Mais sur ce que j'ai vu, quand je vois l'effectif de Leverkusen par rapport à un Bayern qui me semble un peu trop stable pour moi, pour m'enflammer, même si Compagny parle beaucoup du physique, on sent qu'il était en première ligue, etc. Ça va beaucoup évoluer. Je pense qu'on risque d'avoir un duel assez extraordinaire. Alors, pour ça, il faut que le Bayern augmente et il faut que les Leverkusen baissent un petit peu.
J'ai beaucoup de questions dans le chat de la chaîne YouTube RMC Sport. N'hésitez pas à nous appeler au 32-16. Dans quelques minutes, c'est votre moment. Vous serez face au drôle de dame. Très rapidement, il y a Engange qui demande si on a des nouvelles de la prolongation de Moussiala. Rapidement, Polo.
Non, alors Moussiala, c'est pas vraiment un problème pour qu'il prolonge et tout ça, mais c'est plus les autres, en fait. C'est-à-dire que le problème de Moussiala, c'est de savoir est-ce que Thomas Müller va retrouver une troisième vie ou pas. Est-ce qu'on va le faire en meneur de jeu? Est-ce qu'il est capable de prendre les rênes de la sélection? De la sélection, oui, d'une part, et mais aussi le club. Et donc la prolongation, apparemment, ça peut se faire. Mais il n'y a pas de problème financier au Bayern, je le rappelle. Le problème du Bayern, c'est d'être compétitif par rapport aux gros cylindrés de la Première Ligue et du Real et du PSG, évidemment. Mais c'est pas le fait de perdre de l'argent ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a des joueurs qui sont moyens. Et ça a commencé avec Lucas Hernandez, qui a été acheté et qui a eu les salaires, et puis le salaire qui va avec, et tous les mecs se sont adaptés là par rapport à cette somme-là, et finalement ça plombe les comptes du Bayern, qui veut se débarrasser des joueurs moyens.
32-16, si vous voulez poser vos questions, drôle de dame dans quelques instants. On va parler également de PL avec l'après Klopp qui a bien débuté pour Liverpool, mais tout de suite à 21h43 sur RMC, la minute italienne. Una stella, una chitarra, primo amore biondo e mio. Quel crooner celui-ci quand même là. Ton micro.
Vent'anni, Massimo Ranieri. J'ai choisi non Ranieri pour parler de Cagliari Roma.
Ah bah.
Ces deux clubs, lui le romanista, et qui a ensuite fait une très belle carrière en deux étapes à Cagliari. Et pour parler tout simplement de ce match hier, qui était franchement pas en ballon, l'un des plus mauvais matchs du week-end italien. Mais il y a Mathias Soulet. Et Mathias Soulet, je vous en ai beaucoup parlé la saison dernière, ça va être encore le cas parce que c'est le talent, le diamant notamment de la Roma. La grande question d'ici la fin du mercato, c'est est-ce que ce grand talent et est-ce que ce gros diamant, ça va être avec Dybala, autre diamant ou sans Dybala? Et du côté de la Roma, on a un peu compris que ça pourrait être sans Dybala, pas titulaire à Cagliari, discours de De Rossi qui explique que personne n'est plus important que le club, que est-ce qu'il serait inquiet d'un départ de Dybala? Il dit je serais surtout inquiet s'il n'y a personne qui arrive si jamais il part. Donc on aurait pu avoir un duo absolument magnifique, pas sûr que ça soit ultra compatible ou ultra déjà entre eux ou ultra compatible avec l'évolution du football. Dybala Soulet, on aura peut-être que Soulet, mais c'est déjà pas si mal.
Bon, en tout cas là sur ces, je vous le dis ce soir, sur ces minutes, les gars, j'annonce victoire du Johan Crochet. J'adore ce morceau, bien ringard comme j'aime. Très bon ça. Hein.
Ouais, ringard pour Massimo Ranieri.
C'est de quelle origine, Thibaut?
Ouais, lointainement.
Djanglande.
C'est très loin.
Mais ne renie pas.
Non, si. Alors, il n'y a pas d'origine pour la musique. Mais on se base sur la qualité.
La famille Djanglande, elle vient d'où en Italie?
Pas très loin de Naples, justement. Mais c'est vieux, tout ça est oublié.
Après Daniel souvenirs. Riolo.
Non. Moi, c'est beaucoup plus loin. Un vague arrière-grand-père. Ouais. Allez, petite pause. Dans un instant, direction la Première Ligue. L'après Klopp a bien débuté. Julien va nous raconter tout ça, cette victoire face à Ipswich. Et puis, bien sûr, le 32-16. N'hésitez pas. Vous nous appelez et les drôles de dames sont à vous. Ce soir, à tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After, Thibaut Giangrande.
Ah, quel plaisir de retrouver nos drôles de dames en ce lundi soir, de retrouver le foot qui est reparti. On a vibré avec les JO, c'était cool. Et la chance qu'on a, c'est quand même quand on aime le foot, c'est que ça enchaîne. La reprise des championnats ce week-end, ça a repris d'ailleurs en Ligue 2, ça n'a pas bougé, en frein pendant quelques minutes. L'Allemagne reprendra ce week-end un peu plus tard, toujours qui se démarque celui-ci. Paulo Breitner est là, Fred Hermel également, Julien Laurence et Johan Crochet, 32-16. Si vous voulez poser des questions à vos drôles de dames, n'hésitez pas à vous nous appeler, vous êtes en direct sur RMC. Mais d'abord avec toi, Julien, un match qu'on attendait impatiemment ce week-end, celui de Liverpool face à Ipswich, parce que ça y est, on a tourné une très longue page avec l'après Klopp qui a été lancé enfin.
Ouais, quasiment 9 ans après son arrivée, il est parti, on le savait, on s'était préparé. Arne Slot avait été choisi comme l'héritier un petit peu entre guillemets pour certaines similitudes dans leur façon de jouer, c'est sûr, des différences aussi. Et c'est vrai qu'on attendait beaucoup cette première main. On a vu un très bon Liverpool pendant les matchs de préparation, de pré-saison. Et là, on attendait avec beaucoup d'impatience ce premier match. En plus, c'était Manchester United avait joué vendredi soir, mais c'est le premier match du samedi en Première Ligue à 12h30 heure anglaise. Et donc, c'était à Ipswich, comme tu l'as dit, 22 ans après leur dernier match dans l'élite anglaise. Ipswich remontait, Ed Sheeran était là, il faisait le guignol et tout ça sur donc voilà, c'était vraiment, il faisait beau, ça ressemblait un peu au guet-apens, tu vois, tu te dis ah, ils vont leur mettre un petit peu le feu, l'ambiance, etc. Et c'est vrai que la première période a ressemblé à ça, c'était pas du bon Liverpool. Ipswich est plutôt d'ailleurs été agressif, beaucoup plus agressif, gagner les seconds ballons notamment, les duels, etc. Donc c'est vrai qu'à la pause on s'est dit c'est pas génial quand même. Et puis Slot a poussé une bonne gueulante, il a sorti Kwanzaa, le jeune défenseur central, pour faire entrer Konaté. Kwanzaa était pas bon, faut le reconnaître. Et la seconde période beaucoup mieux, Alexander-Arnold a joué beaucoup plus haut, on a retrouvé aussi un petit peu de verticalité qu'on avait chez Klopp, alors que Slot lui veut un jeu de possession. Et on a retrouvé un petit peu les automatismes d'avant, ce qui est pas du tout une critique envers Slot, mais de toute façon cette équipe elle a joué 9 ans sous Klopp, donc forcément les automatismes de Klopp seront toujours là. Et lui, Slot, va chercher à trouver d'autres repères, une façon un petit peu différente de jouer. On a vu par exemple Gravenberch en numéro 6, et Slot a dit voilà, nous on voulait Zubimendi a choisi de pas venir, de rester à la Real Sociedad, très bien, Gravenberch sera le 6. Au lieu d'aller chercher un autre numéro 6 sur le marché, on va mettre Gravenberch en 6. Il y a du travail à faire, mais on a vu un très bon Gravenberch en seconde période notamment. Donc voilà, Jota buteur, Salah buteur, ça change pas, et plutôt une très bonne seconde période à la Slot, et avec un petit peu de Klopp saupoudré là-dessus, ouais. Qui promet, je trouve, assez pour la suite.
Ouais, Polo.
4-3-3, c'est ça, Julien. Toujours pareil, 4-3-3 là, avec.
Non, 4-2-3-1 plutôt. C'était là justement aussi double pivot, Gravenberch, McAllister.
Et c'est Szoboszlai qui monte en 10, c'est ça ?
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, okay. On le voit sur le but de Salah, le 1-2, où Szoboszlai joue beaucoup plus haut peut-être qu'habituellement. Alors, il y avait un peu de fluidité quand même, mon Polo, tu vois. Mais c'est vrai que même au niveau de ce changement-là, alors qu'on était habitué au 4-3-3 à Feyenoord, par exemple, ça aussi, c'était assez intéressant.
Et au 4-3-3,
je parle sous le contrôle de Johan. Moi, je suis un fou d'Arne Slot. Mmh. Je pense que c'est une superbe opération.
Ouais. Ah, moi aussi,
pour une transition. Super saison. Et puis en plus, ils sont dans la situation avec Arne Slot la même qu'il y avait avec aux Pays-Bas, c'est-à-dire que le favori en gros c'est Manchester City, même si on me donne Arsenal, et on va dire Liverpool est peut-être un petit peu en dessous, mais c'était un peu la position qu'il avait Slot aux Pays-Bas, c'est-à-dire qu'il y a l'Ajax qui est théoriquement le club au-dessus avec des moyens, etc. Mais lui, il a fait un boulot extraordinaire, et je me demande si ça peut pas être enfin moi, s'il y a un club que je vais suivre en Europe cette année, c'est vraiment Liverpool.
Et au-delà de ça, je trouve que la communication, elle est en train de séduire tout le monde, parce qu'il répond bien, il répond précisément sur ce qu'on lui demande tactiquement. C'est pas du genre honnête, à faire de la langue de bois ou à cacher un peu les trucs. Il a un niveau d'anglais qui est assez. J'allais dire.
C'est normal, non, pour les Néerlandais quand même. Ils sont tous plutôt bons.
Ils sont plutôt bons, mais là quand même, je trouve que tu vois, c'est très précis, quoi. Tu vois, tous les termes sont bien utilisés et tout. L'opération de séduction, je lisais quelques commentaires de supporters de Liverpool et ils étaient vraiment séduits aussi par les explications d'après-match.
Tiens, on a débuté ce petit sujet. Il y avait 0-0 entre Villarreal et l'Atlético de Madrid. Il y a désormais un partout.
Exactement. Avec c'est Llorente qui vient d'égaliser, parce que le premier but venait d'être marqué par Danjuma, qui avait médusé Witzel. Il s'est fait démonter là. Et la belle réaction d'Atletico avec ce but de l'inusable Llorente, un partout. Bah, ça, franchement, pour l'instant, c'est le meilleur match que j'ai vu.
Ça démarre
de la Ligue 1, hein. C'est vraiment pas mal.
Dans quelques minutes, on fera un point sur la Ligue 2. L'after arrive également, hein. Dans 10 minutes, Gilbert Bribois, Flo Gautreau, Walid Acherchour. Mais d'abord, vous avez la parole au 32-16 et on a Pierre qui est avec nous. Salut Pierre, bienvenue sur RMC.
Salut, merci de m'accueillir. Bonsoir aux drôles de dames.
Salut Pierre. Merci salut, d'être Pierre. Là. Et toi, tu veux t'adresser ce soir à Julien, justement, pour parler de Liverpool.
Ouais, Julien,
Peter.
Puis, Peter, c'est ça. Julien, je t'ai entendu parler de Liverpool. Moi, j'ai vraiment pas le même avis que toi là-dessus. Moi, je suis plutôt inquiet pour Liverpool. Alors, le choix de l'entraîneur, c'est très bien, mais il faut quand même remplacer Klopp, hein, c'est quand même pas rien. Et je trouve que moi, ils ont quand même été très très loin d'Arsenal et City l'année dernière. Je vois aucune recrue. Je suis inquiet pour le poste d'avant-centre parce que je trouve que Nunez et Gakpo, ils arrivent pas à me convaincre. J'ai l'impression que Salah et Van Dijk, j'ai peur qu'ils commencent à vieillir et qu'on commence à le ressentir. Et au milieu de terrain, ben McAllister, Gravenberch, tu en as parlé. Je vais mal prononcer son nom, mais l'Autrichien Szoboszlai, là, je trouve qu'année dernière,
ils ont pas réussi. Non, il n'est pas autrichien.
Non, il est hongrois, mais oui, il a joué en
Autriche. Oui, en Autriche-Hongrie, quand même, l'Empire, là. Oui, bon, ça va.
Autant pour moi, excusez-moi, les gars. j'ai l'impression, en fait, qu'ils n'ont pas atteint la plénitude qu'on attendait d'eux. Et hormis les latéraux qui sont toujours aussi exceptionnels, moi, je suis inquiet du fait qu'ils aient zéro mercato cette année. Qu'est-ce que tu as à me répondre là-dessus?
Ouais, ça, c'est bizarre. D'ailleurs, c'est le seul club dans. T'as raison, Peter, hein, le seul club des 5 grands championnats à ne pas avoir une seule recrue. Pour l'instant, on a parlé de Zubimendi un petit peu. Je sais qu'on n'a pas trop le temps non plus, mais ce qui peut paraître étonnant finalement, c'est que ceux-ci, s'ils le cherchent depuis que Fabinho, même avant que Fabinho parte, sa dernière saison, il était déjà moins bon. Ils le cherchaient, il y a eu un Lavia par exemple qu'ils ont voulu aller chercher, Caicedo aussi, ils ont tous les deux choisi Chelsea. Là, c'est Zubimendi, et le fait que Zubimendi te disent non, ça peut arriver. Il y a beaucoup de clubs qui signent pas leur plan A, mais ils ont souvent un plan B, voire un plan C derrière. Parce que si tu vas chercher un Zubimendi, c'est que tu reconnais quand même toi-même que tu as besoin d'un 6. Alors que tu n'ailles pas chercher un autre 6, j'ai du mal un petit peu à comprendre, effectivement, mais que tu choisisses Gravenberch, très bien, pourquoi pas, mais ça ressemble quand même un petit peu à une mission Gravenberch. Oui, donc je peux comprendre ce que tu dis. Après, et puis il y aura des adversaires bien meilleurs que Ipswich samedi aussi, hein, ça c'est vrai. Donc on verra, mais voilà, la seconde période, elle est quand même très, 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 très encourageante.
Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été là. Bientôt.
Merci, les gars.
Ciao. Bye bye. Il y a Kevin qui nous appelle au 32-16. Salut, Kevin.
Et buonasera a tutti.
Oh,
ah ben c'est pour qui la question
hein. Et oui, c'est pour Polo. Alors, question pour Johan, évidemment.
Bonsoir les gars, salut Johan. Salut, Chico. Je connais ton amour légendaire pour Massimiliano Allegri. Là, tu vois arriver Mota, une équipe qui est très jeune, comme celle alignée ce soir, où il n'y a aucun joueur qui a plus de 27 ans titulaire.
Toujours 2-0 d'ailleurs, pour la Juve contre Com, 52 ouais. minutes. Vas-y.
Beaucoup de paris aussi, hein. Chiesa qui va partir. On mise tout sur Yildiz qui est quand même jeune. Qu'est-ce que tu penses de la Juve? Est-ce que tu penses que finalement Mota c'était le choix idéal et surtout à quel poste tu vois la Juve à la fin de la saison?
Ah, bonne question. Mota pour moi c'était l'entraîneur idéal. Quand j'avais fait un petit jeu pour savoir quel entraîneur irait bien dans quel club pour la nouvelle saison, j'avais placé Mota à la Juve parce qu'il a tous les éléments pour moi pour repartir sur un cycle à la fois avec des jeunes. Il a montré qu'il était capable de leur faire confiance, de les faire progresser surtout. Et il a aussi la mentalité, l'esprit, l'ADN Juve, mais ça fera pas plaisir aux supporters de l'Inter, mais il a cet ADN d'exigence qui est très qui colle à la peau de la Juve. Donc entraîneur idéal, oui. Effectif rajeuni également, mais c'est une volonté. C'était déjà le cas en début de saison dernière. Hein. On avait demandé à Allegri, c'était pas forcément son souhait, mais on lui avait imposé d'utiliser beaucoup plus les jeunes de la next gen. Et d'ailleurs, ça avait été plutôt un succès. Là, effectivement, il y a aussi des choix qui ont été faits clairement, hein, de se séparer de pas mal de joueurs, dont certains cadres ou certains expérimentés comme Kostic, par exemple, ou Milik, pour faire place à des joueurs plus jeunes, plus enclin à faire des efforts, à se conformer avec l'évolution du football et un jeu de plus en plus dynamique. Et où je les vois, bah, moi j'ai fait ma petite grille comme à chaque début de saison et la Juve, autant l'Inter est clairement le favori parce que ils se sont renforcés et ils sont champions sortants, autant moi le premier rival de l'Inter pour moi doit être la Juve qui va compléter aussi son effectif dans les derniers jours du mercato.
Merci beaucoup.
Merci Kevin, à bientôt.
Ciao Kevin.
Et bonne soirée.
Ciao, à bientôt. On va pas avoir le temps de prendre Gabriel. Merci d'avoir été là, Gabriel. On te rappellera la semaine prochaine. Merci la drôle de dame d'avoir été là. Ça a été un plaisir de vous retrouver.
Quel bonheur de vous retrouver.
Merci Thibaut.
Ciao, ciao.
Ah, c'est cool.
À très vite. On vous retrouve
tous les lundis,
20h-22h, comme toutes les semaines.
Ciao.
Tout le foot européen, c'est ce qui ça se passe, et bien évidemment, tout au long de la semaine, dans l'after qui arrive dans un instant. Hein. Gilbert Bribois, Walid Acherchour, Florent Gautreau et vous tous au 32-16. C'est le lundi soir, le lundi de la Ligue 1. Et juste avant, parce que va falloir s'y réhabituer, mais le lundi soir, c'est Ligue 2. Également, deux matchs en ce moment. Martigues-Lorient au Vélodrome, Maxime Tilliette.
Et toujours 0-0, la 53e minute. Lorient a toujours la possession, toujours la domination, mais c'est plutôt stérile pour le moment. Et la plus grosse occasion, elle a été pour Martigues il y a quelques minutes, juste après le retour des vestiaires. Patrick Wautreau, prêté par Strasbourg, qui a mal négocié son face-à-face avec Yvon Mvogo. Très bon retour à dire de Formose Mendy, le défenseur lorienté. Derrière, il y a eu danger aussi sur le but lorienté, sur le corner qui a suivi. Mais on en reste là pour le moment, 0-0 à la 54e.
À tout à l'heure, et puis c'est la mi-temps entre Metz et Bastia, 1-0 pour les Bastiais. Le match a pris énormément de retard après la contestation des supporters messins qui ont lancé des balles de tennis depuis les tribunes. Contestation contre la programmation de la Ligue 2 qui n'a plus lieu le week-end, à part un seul match le samedi. Merci les gars, merci d'avoir été là, fidèle au drôle de dame. Merci à Geoffrey Charpy, Apollo, à Max, au standard, à la Real, à la prod. Tout de suite, c'est l'after sur RMC. Ciao.
Génération After.